ça va quand même être votre place. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour notre séance de rentrée Monsieur Antoine Gournay, qui est maître de conférence à Paris-Sorbonne en art et archéologie, spécialisé dans l'art de l'Asie orientale, si j'ai bien compris, qui s'intéresse depuis longtemps, depuis sa thèse, au jardin chinois. Et donc, qui va nous parler aujourd'hui des jardins chinois et japonais. Je voulais juste, avant de lui donner la parole, vous dire que j'étais particulièrement heureuse de voir aujourd'hui beaucoup de nouvelles têtes dans la salle et je m'en réjouis. J'en profite du coup pour faire un petit effet d'annonce concernant la construction de la Bulac, car certains d'entre vous viennent peut-être écouter Monsieur Gournay, mais n'ont peut-être pas beaucoup entendu parler de la Bulac. Donc, juste en deux mots, c'est une bibliothèque universitaire des langues et civilisations, Bulac, qui va rassembler donc notamment les fonds de la bibliothèque interuniversitaire des langues orientales, la bibliothèque de Langzhou, dans le même bâtiment que l'INALCO lui-même, donc bâtiment dont la construction a commencé depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Le chantier a été lancé cet été, au mois de juillet, et donc voilà, les grues, ou du moins déjà les pelleteuses, sont sur le chantier, rue des Grands Moulins, et je pense que d'ici très peu de temps, nous aurons le plaisir peut-être de vous proposer de visiter ce chantier et dans un tout petit peu plus de temps d'organiser nos prochaines conférences sur le site, car maintenant nous tenons le bon bout. Voilà, donc sans attendre davantage, je laisse la parole à Monsieur Gournay pour à peu près une heure et demie, puisque nous avons l'habitude d'avoir des questions assez nourries en fin de parcours, et donc nous gardons 20 minutes, une demi-heure pour les questions. Voilà, merci, la parole est à vous. Si vous avez besoin que je vous aide à passer les... D'accord, merci.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, nous allons donc évoquer ce matin un monde très différent de celui que nous connaissons dans le cadre des jardins d'Occident, qui est celui donc des jardins de l'Extrême-Orient. Le titre de la conférence est, disons, pour simplifier un peu, Jardin de Chine et du Japon. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. En réalité, ce dont je vais vous parler ce matin, ce que je vais évoquer d'une manière plus générale en commençant, c'est véritablement une tradition à la fois très ancienne et très largement diffusée dans tout l'Extrême-Orient, non seulement en Chine, au Japon, mais aussi dans des pays tels que la Corée et le Vietnam, c'est-à-dire dans différents pays qui, à divers degrés, ont été marqués au cours de leur histoire par la civilisation chinoise. Alors, jardin de Chine, jardin du Japon, c'est certainement ce que, au départ, il nous semble connaître le mieux, ce qui nous est certainement le plus familier, et qui pourtant, en même temps, peut paraître comme deux univers qui sont eux-mêmes très différents. Alors, dans un premier temps, j'aimerais évoquer quelques jardins qui sont très célèbres, et essayer de vous montrer qu'en dépit des différences entre ces différents jardins, eh bien, il y a véritablement une tradition commune. Alors, je commence souvent avec mes étudiants par montrer une carte, et après je m'écarterai un petit peu de la géographie, mais je pense qu'il est important de se rendre compte d'un certain nombre de faits qui permettent d'expliquer qu'on a affaire à une tradition à part et différente, tout à fait distincte, de l'autre grande tradition des jardins, qui est, si je peux l'appeler ainsi, la tradition issue du Proche-Orient, ensuite répandue dans tout le monde méditerranéen, par les Grecs, puis les Romains, qui s'est ensuite transmise dans tout l'Occident européen, et nos jardins, vous avez ici de magnifiques tentures célébrant les grands gestes de Louis XIV, notamment la première en entrant là-bas qui évoque les travaux de l'agriculture et de l'horticulture. Bon, toute cette tradition-là, nos grands jardins à la française au XVIIe siècle, les jardins de Lenôtre, sont les lointains héritiers de ces jardins antiques dont les racines, si je puis dire, sont au Proche-Orient. Et puis l'autre grand rameau de cette tradition, c'est évidemment le rameau islamique, puisque dans tout le monde islamique, on a aussi, au fil des siècles, développé toute une tradition des jardins qui a elle-même beaucoup tirer son inspiration de ce qui existait avant l'islam, à la fois au Proche-Orient et dans le bassin méditerranéen. Et comme vous le savez, cette tradition des jardins islamiques s'est répandue jusque dans le monde indien, avec donc l'arrivée de l'islam en Inde, et puis aussi en partie dans l'Asie centrale. Donc, très vaste tradition, avec beaucoup de ramifications, mais qui a tout de même des racines communes. Ce qui nous occupe ce matin, c'est une tradition complètement différente et qui, assez paradoxalement, est restée très longtemps sans contact véritablement régulier et sans échange, disons, très approfondi avec la première tradition dont je viens de parler. C'est donc la tradition extrême orientale des jardins. Elle est essentiellement née en Chine et elle s'est développée dans tous les pays que j'ai cités tout à l'heure. Alors, ce qui explique cette relative absence d'échange, il y en a tout de même eu, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, ou nous y reviendrons, c'est d'abord le fait que, bien entendu, les jardins ne s'exportent pas. Un jardin, c'est quelque chose qui se crée dans un site, sur un terrain particulier, et on peut bien entendu l'évoquer, on peut le décrire, on peut en tirer des images qui, elles, peuvent circuler, et effectivement, la circulation des témoignages, qu'ils soient sous forme d'images, de textes ou encore de témoignages oraux, a sans doute été très importante. Et ça explique notamment que chez nous, au moment de la vogue de la chinoiserie, par exemple au XVIIIe siècle, un certain nombre de connaissances sont parvenues jusque chez nous à propos de ces lointains jardins chinois que très peu de gens avaient vus. Et ce qu'on racontait sur les jardins donc, de ce lointain Orient a contribué à faire évoluer notre propre tradition. Mais on peut difficilement dire qu'il y a eu de véritables échanges. Un peu plus récemment, lorsque le Japon s'est ouvert à l'Occident, il y a eu un véritable engouement en Occident, à partir de la fin du XIXe siècle, pour le jardin japonais, ou en tout cas pour ce qu'on en a perçu. Mais vous voyez que ces échanges-là sont relativement récents, surtout compte tenu de l'ancienneté de la tradition qui nous concerne. Alors, en revanche, si on regarde rapidement la carte et notamment donc l'Extrême-Orient, on se rend compte que lorsqu'on se trouve en Chine, eh bien, les contacts sont beaucoup plus faciles, tout d'abord, vers le nord-est, vers la Corée et le Japon, ce qui explique que très tôt, il y ait eu des échanges dans cette direction, et également vers l'Asie du Sud-Est, ce qui explique d'autre part que le Vietnam, comme vous le savez, est tombé plus ou moins dans l'orbite chinoise pendant très longtemps, à partir des débuts de notre ère, eh bien, ces régions ont été donc à divers degrés marquées par la tradition des jardins qui existait en Chine. En revanche, vers le nord, vers l'ouest, l'exportation, si je puis dire, des jardins était rendue beaucoup plus difficile, vers le nord parce qu'on tombait dans le monde de la steppe, qui se prête évidemment beaucoup moins à la culture des jardins, et vers l'ouest, les hauts plateaux et les hautes montagnes qui enclosent, si je puis dire, le monde chinois de ce côté-là et le coupe du monde indien avec l'énorme barrière de l'Himalaya, expliquent qu'il y ait eu finalement assez peu de contacts sur le plan de l'art des jardins, en tout cas direct, entre notamment la grande tradition indienne, qui est également très, très importante, et ce qui se passait en Chine. Alors, après avoir donc essayé de circonscrire les frontières, disons, du monde qui va nous occuper, je vais principalement vous parler ce matin de la Chine et du Japon. Pourquoi ? Parce que ce sont... Alors, il faut que je ne me trompe pas d'ordinateur. Voilà. Et je vais commencer par évoquer quelques aspects de cet art des jardins, à la fois en Chine et au Japon, qui nous paraissent sans doute assez familiers, mais qui en même temps peuvent nous paraître extrêmement déroutants et certainement aussi très éloignés les uns des autres. Alors vous avez peut-être reconnu ici ce qu'on appelle aujourd'hui le palais d'été de Pékin, en chinois le Yi He Yuan, c'est-à-dire le jardin pour nourrir l'harmonie, qui est le dernier né et le dernier restauré, si je puis dire, de toute une tradition de palais d'été, de résidence, où les empereurs de Chine se rendaient à la saison chaude pour échapper à la canicule, qui était particulièrement pénible, notamment dans une ville comme Pékin en plein été. Et ce palais que nous connaissons comme le palais d'été a été occupé en fait jusque dans les premières années du XXe siècle. Il est donc l'héritier de toute une lignée. Ce palais, c'est un palais qui a été aménagé essentiellement par la toute dernière dynastie impériale chinoise, la dynastie d'origine mandchoue, qu'on appelle la dynastie Qing, qui a régné donc entre 1644 et jusqu'en 1911, date de la révolution chinoise. Et ce palais a notamment été la résidence de la fameuse impératrice douairière Cui, qui, comme vous le savez, tirait les ficelles de la politique chinoise à la fin du XIXe siècle. Mais ce grand jardin qu'on visite aujourd'hui, ce magnifique parc qui s'étend sur une centaine d'hectares, n'est en fait qu'un petit morceau d'une vaste territoire qui était aménagé sous forme de parc et de jardin, qu'il a été à partir du XVIIe siècle par les empereurs mandchous, et où étaient installées donc diverses résidences qui appartenaient à la famille impériale. Et le plus célèbre de ces grands palais d'été a été le fameux Yuan Ming Yuan, qu'on traduit quelquefois par le jardin de la splendeur ou de la clarté parfaite, qui fut pillé, comme vous le savez sans doute, par une expédition franco-anglaise en 1860, et qui a été entièrement ravagé et incendié à ce moment-là. Après 1860, la cour impériale de Chine, qui avait fui, est revenue sur les lieux, et faute d'avoir les moyens de restaurer l'ensemble, on a choisi essentiellement de restaurer un palais qui était adjacent, qui est l'actuel Yi Ruan, le palais d'été, et qui est celui qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de palais d'été. Alors que donc le Yuan Ming Yuan, celui qui a été entièrement détruit, était encore beaucoup plus vaste, certainement encore beaucoup plus somptueux, et c'est lui donc qui avait été l'objet de cette destruction à beaucoup plus fort, à un degré beaucoup plus marqué que le Yi Ruan. Alors, je pars de cet exemple très connu parce que d'abord, c'est un jardin extrêmement vaste, extrêmement étendu. Vous voyez qu'il est essentiellement composé, si je puis dire, de deux éléments qui, en fait, constituent les deux éléments de base de tout jardin en Extrême-Orient. L'eau et la montagne. Au fond, nous voyons ce qu'on appelle dans ce jardin la colline de la longévité, sur laquelle s'étagent dont divers palais, et notamment des temples bouddhiques qui avaient été construits par ces empereurs mandchous, qui étaient également des protecteurs du bouddhisme. Et puis au premier plan, un immense lac qu'on appelle le lac Kunming, par référence à une célèbre bataille navale, et aussi en référence à un lac de la province du Yunnan, donc qui est très éloigné de Pékin. Ici, nous sommes au nord-est de la Chine, et on se réfère ainsi, en aménageant ce lac et en lui donnant son nom de Kunming, à la fois à des événements historiques lointains et à une province très éloignée. Cette idée de réunir dans le jardin que l'on crée un certain nombre de souvenirs, de références à tout un passé culturel que chacun connaît, est très importante en Chine. Alors, les deux éléments de base sont donc la montagne et l'eau. Et ils vont de pair, puisque lorsque vous creusez un étang, et ça a été le cas ici, dans cette région qui était à l'origine un petit peu marécageuse, eh bien, on a agrandi, en quelque sorte, les étangs qui préexistaient, et avec la terre qu'on en a tirée, on a pu élever, en partie artificiellement, cette colline que vous voyez au fond, et qui est dominée donc par des monuments bouddhiques, qu'on appelle la colline de la longévité. Ces deux éléments, la montagne et l'eau, forment donc les deux éléments complémentaires de ce qui est en quelque sorte l'équivalent de ce que nous appelons chez nous le paysage. Les Chinois ont inventé un terme pour cela. Ils juxtaposent les deux mots qui signifient montagne et eau, shan et shui en chinois. Shan shui, l'expression qui donc consiste à combiner ces deux mots, a été introduite il y a fort longtemps dans le langage pictural, dans le monde de la peinture, pour désigner un genre pictural particulier qui consiste justement à représenter des vues de la nature où se combinent des éléments qui relèvent de la montagne, de la terre, si vous voulez, de l'élément yang, de l'élément masculin, actif, positif, à des éléments qui relèvent du yin, de la fécondité, du calme, qui est l'eau. Donc montagne et eau, shan shui en chinois, sont complémentaires, ils ne s'opposent pas terme à terme, mais ils forment en fait deux aspects, si vous voulez, différents de l'univers. C'est une des applications de la fameuse théorie du yin et du yang. Et lorsqu'on crée un jardin, eh bien essentiellement ce qu'on fait, c'est qu'on crée des montagnes, on creuse des bassins, et on s'attache à retrouver dans cette création artificielle faite de la main de l'homme cette harmonie qui réside en permanence dans la nature, dans l'univers qui est autour de nous. Donc, nous avons ici, avec ce jardin impérial du palais d'été, un exemple, si je puis dire, à très grande échelle de ce type de conception. Alors, par contraste, je voudrais vous montrer maintenant un autre jardin extrêmement célèbre que vous avez certainement tous déjà vu, qui est le fameux jardin du Ryoan-ji à Kyoto. Nous sommes maintenant au Japon. C'est un des plus célèbres jardins qu'on appelle en Occident les jardins zen, parce que ce jardin a été aménagé dans une des cours qui font partie d'un des temples zen, donc un temple bouddhique zen qui se trouve à Kyoto, qui s'appelle le Ryoan-ji, Otamo, le temple de la paix du dragon. Le nom lui-même est un nom à consonance chinoise. Et on a donc affaire ici à quelque chose d'extrêmement différent de ce que je viens de vous montrer, puisque c'est un jardin très réduit, quelques dizaines de mètres carrés seulement. Nous sommes dans une cour enclose, la vue est limitée, et ce qui nous est donné à contempler ici est en fait fait pour être vu depuis l'intérieur ou les marches du bâtiment attenant, qui se trouve à droite de la photographie, qu'on ne voit pas, où l'on circule et où l'on peut s'installer donc pour contempler ce paysage qui s'offre aux yeux. Et alors, j'utilise à dessein le mot paysage ici parce que précisément au Japon, on utilise l'expression sanzue, qui est la transposition en japonais du shan shui des Chinois, c'est-à-dire de la montagne et de l'eau. Cette combinaison des deux éléments de base donc, qui forment, qui s'attache à recréer l'harmonie de l'univers. Alors, il s'agit bien entendu ici d'un de ces fameux paysages ou jardins secs, comme disent les Japonais. On utilise en japonais l'expression kare sansue, c'est-à-dire montagne et eau, mais sec. L'eau est absente et elle est en fait remplacée ici par du gravier qui est soigneusement ratissé, dont les lignes évoquent peut-être les vagues. Et cette mer de gravier enserre un certain nombre d'îlots qui émergent donc de ce que l'on pourrait regarder comme une sorte d'océan en miniature. Et on voit émerger donc de l'eau un certain nombre d'îles ou de continents qui sont plus ou moins entourés de mousse. C'est peut-être le seul élément végétal présent dans ce jardin, avec les arbres, eux, à beaucoup plus grande échelle, qu'on aperçoit tout de même par-delà le mur, mais qui n'étaient pas prévus au départ pour être aussi visibles. Et donc, l'ensemble de ce qui est donné ici à regarder forme un tout, c'est en quelque sorte une scène qui est très savamment calculée pour être contemplée depuis un certain point de vue. Alors ça, c'est un autre aspect important de ces jardins d'Extrême-Orient, sur lequel je vais revenir au cours de la conférence. C'est aussi le fait que non seulement donc, on aménage bien entendu des lieux à partir de certains éléments qu'on va combiner, qu'on va associer, mais en même temps, on aménage toujours un ou plusieurs points de vue qui vont être extrêmement importants, puisque c'est à partir de ces points de vue que ce qui est donné à voir va se découvrir et prendre donc toute sa signification. Alors, je reviens au palais d'été des empereurs de Chine et je cultive ici à dessein les différences. Il y a donc, traversant le grand lac de ce palais d'été, plusieurs ponts très célèbres dont le fameux pont aux 17 arches que l'on voit ici à gauche de la photo et qui mène à une petite île, donc au centre de l'étang, qui est l'une des îles de ce parc, qui est elle-même ornée d'un très beau pavillon à 8 côtés, un pavillon octogonal. Et cet élément est la reprise, en fait, à très grande échelle, à échelle impériale, si je puis dire, avec un certain faste, d'une tradition qui a aussi été très longtemps cultivée dans les jardins de Chine, qui consiste à aménager dans les lacs ou dans les étangs, donc des îles. Et par ailleurs, à aménager aussi des parcours qui permettent de circuler à l'intérieur du jardin. Sur les étangs, on peut éventuellement naviguer lorsque la profondeur et l'étendue des étangs s'y prêtent. Et puis on peut également circuler par des chemins, des ponts, toutes sortes de passages qui permettent donc de découvrir le jardin, non seulement depuis les points de vue dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi au fil d'un parcours. Ça, c'est très important. Alors, au Japon, où je retourne maintenant, ici, nous avons au Ryoenji, évidemment, une vision beaucoup plus réduite du point de vue de l'échelle réelle de ce qui nous est donné à voir. Mais avec un peu d'imagination, on peut penser avoir devant soi une immense étendue d'océan et peut-être des îles qui émergeraient de cet océan et qui évoquent peut-être cette très ancienne tradition qui est d'abord née en Chine, dans laquelle on évoquait ce qu'on appelait les îles des immortels. Dans la tradition chinoise, depuis l'Antiquité, et notamment dans le cadre du taoïsme, qui a énormément brodé sur ce thème, on s'imaginait qu'il existait quelque part, en quelque sorte, des contrées extraordinaires, des paradisiaques, où vivaient des immortels, des êtres qui, au contraire de vous et moi, atteignaient une longévité extraordinaire, voire l'immortalité, et dont certains, disait-on, résident dans des îles inaccessibles aux simples mortels, qui apparaissent quelquefois à l'est, dans l'océan à l'est de la Chine, et se perdent dans les brumes dès qu'on essaie d'y accéder. Alors, il y a très beaux mythes, de très belles histoires qu'on raconte ainsi sur donc des contrées très différentes de celles où nous vivons, des sortes de paradis où la vie serait plus agréable, nettement plus paisible que celle que nous connaissons. Et cette vie paradisiaque, celle des immortels, elle est tantôt représentée dans des îles, mais quelquefois aussi dans son complément, dans des montagnes très lointaines qui se trouveraient au contraire à l'ouest de la Chine et qui sont elles aussi très difficiles d'accès. Alors, même dans le contexte d'un temple bouddhique comme celui-ci, eh bien, je pense qu'il y a des échos de cette tradition très ancienne. Et le bouddhisme lui-même, qui est apparu bien plus tard en Chine, vous savez que le bouddhisme n'apparaît en Chine qu'au début, au tout début de notre ère, et il faut attendre encore quelques 500 ans pour qu'il pénètre au Japon. Le bouddhisme lui-même a beaucoup élaboré cette idée qu'il existe ailleurs des terres ou des contrées où l'on peut vivre plus heureux. Et certains bouddhas du bouddhisme du grand véhicule, comme le fameux Amitabha, celui que les Japonais appelleront Amida, est un bouddha dont on dit qu'il règne sur un paradis qui se trouve à l'ouest, et qu'on appelle d'ailleurs la terre pure. Alors toutes ces idées qui sont très profondément ancrées dans l'imaginaire des gens en Extrême-Orient, et au-delà même des différences entre les grandes traditions philosophiques ou religieuses, ont très profondément marqué l'art des jardins. Et on ne peut pas, en Extrême-Orient, contempler une île au milieu de l'eau, dans un jardin, sans penser à tout cet univers donc issu de la tradition philosophique et religieuse. Alors, je reviens encore au Palais d'été. Vous voyez que nous changeons à nouveau encore de registre. Nous retombons en quelque sorte dans la pompe et le faste. L'impératrice douairière Tsui avait dépensé des sommes colossales, dit-on, au moment de la restauration de son jardin. La restauration la plus récente a eu lieu après la guerre des Boxers. Et on avait notamment reconstruit en marbre ce magnifique chaque pavillon fixe, qui est en forme de bateau, qu'on appelle le bateau de marbre, et qui est amarré donc au rivage de ce grand lac du palais d'été, où l'impératrice douairière organisait des fêtes et des banquets. Cette tradition du pavillon en forme de bateau est aussi très ancienne dans les jardins chinois. C'est aussi, bien entendu, une manière de susciter la rêverie. Le fait de disposer d'un pavillon qui est construit non seulement au bord de l'eau, mais même sur l'eau, où l'on peut s'installer et où l'on peut s'imaginer partant donc pour une destination lointaine et où l'on peut éventuellement recevoir des amis, des proches et partager des moments agréables. Alors ce bateau de marbre était en quelque sorte au goût du jour. On était sorti de la stricte tradition architecturale chinoise puisqu'on avait choisi de construire en marbre. Et vous voyez d'ailleurs que le bateau évoque un bateau à aubes avec des roues sur les côtés. Et il est resté en Chine en quelque sorte le symbole du gaspillage à cette époque-là de la cour impériale, puisqu'on a beaucoup reproché à l'impératrice Cui de détourner des fonds qui normalement auraient été réservés à la modernisation de la marine chinoise pour faire restaurer de manière somptueuse son et donc de se préoccuper beaucoup plus de ce qu'elle pouvait mener loin du monde dans le palais d'été que des problèmes que connaissait la Chine à ce moment-là. Alors, le thème de l'eau qui s'écoule, de l'eau qui est une invitation au voyage, de l'eau qui s'écoule de la montagne, est très présent aussi dans les jardins japonais pour les mêmes raisons, et remontant aux mêmes origines. Donc je vous montre ici un autre jardin zen extrêmement célèbre qui se trouve également à Kyoto, dans un temple qu'on appelle le Daitokuji, on traduit quelquefois par le temple de la grande vertu. C'est un des grands temples de la secte bouddhique Rinzai au Japon. Et à l'intérieur de ce vaste temple, il existe beaucoup de petits temples secondaires qui sont en fait aménagés souvent sur le mode d'une résidence quasi particulière, puisque sur chacun de ces petits temples secondaires règne, si je puis dire, un abbé, un supérieur, qui réside en permanence. Et les petites cours de ces temples, souvent extrêmement réduites en surface, sont aménagées en jardin. Le Ryōan-ji, le jardin que je vous ai montré tout à l'heure, avec ses très célèbres rochers, qui jouent sur une surface relativement étendue pour le coup, et sur un très grand dépouillement, contraste avec celui-ci. Il s'agit ici du temple du Daizen-in. Si je traduis le nom de ce temple, ça veut dire littéralement le temple in du grand immortel. Et vous voyez que dans l'idée d'un grand immortel, il y a aussi certainement référence à tout ce passé imaginaire chinois et même au taoïsme. Dans la minuscule courette qui s'étend ici devant l'une des pièces importantes de la résidence des moines, puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle le shōin, c'est l'endroit où l'abbé du monastère se retirait, comme dans son bureau, dans son étude, si vous voulez, pour y travailler. Et la vue donc, qu'il avait directement depuis cette salle où il pouvait s'installer, à hauteur de tatami, légèrement en hauteur par rapport au niveau du sol, donnée directement sur cette petite cour, dont on ne voit pas ici très clairement les limites. Alors c'est accentué par la photographie, mais en réalité les parois blanches que vous distinguez au fond de la photo correspondent au mur du jardin qui est blanchi. Et on a disposé très savamment des rochers dans cette cour pour évoquer des montagnes particulièrement déchiquetées, des pics assez vertigineux, d'où semble s'écouler de l'eau, une eau qui s'écoule donc vers le bas de la photo et qui est ici ratissée toujours de la même manière pour évoquer un flot, et qui contourne, après être passée sous un pont, vous voyez cette pierre horizontale au milieu de la photo, qui est en fait une pierre assez réduite, peut-être de 40 ou 50 cm de long, donc qui n'est pas du tout faite pour être réellement, physiquement empruntée comme un pont, mais sur laquelle on peut mentalement se projeter et de manière à imaginer, si vous voulez, des promenades à l'intérieur de cet univers en miniature. Donc l'eau s'écoule, elle contourne plusieurs rochers de formes très différentes les uns des autres, qui ont été très soigneusement choisis justement pour les contrastes qu'ils offrent. Et l'eau semble ensuite passer sous ce corridor ici qui est orné d'une fenêtre. La cour que je viens de vous montrer se trouve immédiatement derrière, et on passe ici dans une autre petite cour attenante où le flot se continue, semble s'élargir et où semble dériver cette pierre étrange qui évoque avec un petit peu d'imagination la forme d'un bateau, là encore. Donc, vous voyez que ici, d'une manière beaucoup plus subtile, beaucoup moins explicite sans doute et plus énigmatique, on évoque toujours cette idée du voyage que l'on pourrait faire pour s'en aller très loin et changer d'univers. Alors, donc entre ces deux traditions extrêmement différentes à première vue, celle des grands jardins impériaux de Chine et celle des jardins zen du Japon, il existe donc un certain nombre de thèmes et d'origines communes qu'on peut donc essayer de remonter. Alors, je ne voudrais pas tout de même être trop caricatural. À dessein, je rapproche des choses qui paraissent à première vue extrêmement distinctes, mais on peut tout de même essayer de comprendre un certain nombre, de se donner un certain nombre de points de repère dans cette tradition. Alors, le temple du Daisen-in, où nous étions à l'instant, au Japon, je vous en montre maintenant l'entrée. Nous sommes à Kyoto, donc dans la grande enceinte de ce temple de la grande vertu, et voici ce qu'on pourrait appeler le chemin d'approche du temple. Comme souvent dans ces cas-là, c'est un chemin coudé qui oblige la personne qui se rend au temple à plusieurs détours, et chaque élément dans l'approche même du temple, vous voyez qu'ici se trouve au fond de la photo le portail d'entrée, est soigneusement sélectionné. On trouve déjà des rochers isolés qui ont été installés à dessein, qui obligent à contourner donc ces obstacles, des pins qui sont ici très soigneusement taillés et qui s'étagent par couches successives au-dessus du spectateur, des haies qui sont aussi taillées, un chemin ici rectiligne qui combine de grandes dalles plates mais aussi de petits galets, et tous ces éléments donc contribuent à plonger dans un état d'esprit particulier la personne qui évolue parmi ces éléments et lui donne l'impression que au fur et à mesure qu'elle progresse, eh bien, elle s'éloigne en quelque sorte de la poussière du monde, comme diraient les bouddhistes, et qu'elle entre dans un univers différent. La pièce principale de réception de ce monastère, donc le monastère du Daisen-in, à l'intérieur de ce vaste temple, se présente en quelque sorte comme une demeure particulière. Et ici, donc, nous sommes dans la demeure d'un religieux, mais beaucoup de maisons japonaises, depuis l'époque de Muromachi, l'époque donc à laquelle ces temples ont été aménagés au Japon, la grande tradition de la maison japonaise est énormément inspirée de cette manière d'aménager les demeures. Donc ces temples datent pour la plupart au départ du 14e, 15e siècle, et ils ont bien entendu été souvent réaménagés au fil du temps, et il est souvent difficile de les dater précisément, mais à partir de cette époque de Muromachi, au Japon, s'est développé ce qu'on a appelé le style justement du shōin, c'est-à-dire le style de la salle d'études. C'est le nom qu'on donnait à cette salle où s'installaient les supérieurs des monastères, où ils disposaient d'une table sur laquelle ils pouvaient écrire ou dérouler des rouleaux. Et depuis l'intérieur de ces pièces, eh bien, qui était donc placé à une certaine hauteur sur des planchers surélevés par rapport au niveau du sol, on le voit bien ici, et bien depuis les ouvertures de ces pièces, on avait donc vu directement sur les cours environnantes, qui étaient elles-mêmes encloses et qui contribuaient à faire de ces lieux des mondes séparés du reste. Alors, je voudrais tout de même dire un mot ici de la façon dont la cour est entièrement recouverte de mousse au pied des arbres. Nous sommes ici du côté nord et on s'est aperçu très tôt au Japon, ça c'est devenu une spécialité japonaise, que le gravier ratissé, pour peu que vous soyez dans un endroit assez humide et si vous omettez de le ratisser très régulièrement, eh bien, il se recouvre très vite de toutes sortes de mousses qu'on n'a pas tardé à cultiver et qui sont devenues un des éléments, disons, particuliers à cette tradition du jardin japonais. À l'opposé de cette demeure, de l'autre côté de la pièce, et au débouché des deux petites cours que je vous ai montrées tout à l'heure où l'eau semblait couler depuis les pics de la montagne et en passant sous des ponts prendre un cours de plus en plus large et paisible, eh bien l'eau débouche sur cette autre cour à peu près de la même taille que celle que nous venons de voir mais qui, elle, est entièrement dépouillée, si je puis dire, savamment ratissée. On a juste laissé deux cônes de gravier qui peuvent représenter peut-être aussi des îles d'une manière encore plus simple que celle que nous avions vue figurer par des rochers tout à l'heure. Tout ici mise évidemment sur le dépouillement, sur une certaine austérité et typique de ces jardins énigmatiques qu'ont cultivé, si je puis dire, les grands maîtres zen et qui en faisaient en quelque sorte la transposition sous forme de jardin de ce qu'on appelle dans le bouddhisme zen des koan, c'est-à-dire des questions énigmatiques qu'on pose aux disciples pour déclencher chez lui, sinon l'illumination, en tout cas l'encourager à méditer et à avancer sur la voie du salut. Alors, on dit aussi que l'entretien méticuleux de ces jardins fait partie tâches qu'on fait exécuter régulièrement aux novices qui séjournent dans ces monastères et que c'est aussi une manière pour eux d'avancer en quelque sorte sur la voie. Alors, je pense qu'on peut donc considérer que ces fameux jardins zen qui paraissent si déroutants et si énigmatiques aux occidentaux que nous sommes, mais il faut le dire aussi pour beaucoup de japonais, sont en fait une vision en quelque sorte épurée, poussée à l'extrême d'un certain nombre de thèmes, de traditions qui existent en fait depuis très longtemps dans tout l'extrême-orient et que les jardins zen les plus déroutants sont en fait à dessein des jardins qui en quelque sorte cherchent à vous choquer et à provoquer une réaction chez celui qui le contemple. Mais fondamentalement, le fait d'aménager des jardins en complément d'une résidence où l'on s'installe pour vivre, comme dans les jardins impériaux chinois tout à l'heure, est une tradition donc encore beaucoup plus ancienne et qui a pris des formes très multiples et très diverses dans tout l'Extrême-Orient. Alors, je voudrais en évoquer quelques-unes. Je ne pourrai pas, évidemment, au fil de cette conférence, vous proposer un panorama exhaustif de l'ensemble de l'art des jardins dans tout l'Extrême-Orient, mais on peut au moins, je pense, essayer de se donner quelques points de repère. Alors, j'étais parti tout à l'heure de la notion de paysage de montagne et d'eau, ce qu'on appelle en chinois « shan shui ». Cette tradition du paysage, elle est étroitement associée à la peinture. Et même si nous parlons de jardin ce matin, il ne faut jamais oublier qu'en Extrême-Orient, l'art des jardins est donc extrêmement associé de manière très proche à la peinture de paysage. Je vous montre ici une feuille d'album d'un peintre très célèbre de l'époque des Song qui s'appelle Ma Yuan, qui peignait vers le 13e, au début du 13e siècle, et qui a peint ici à l'encre sur une feuille de soie un de ces paysages évanescents où les montagnes précisément sont à peine suggérées par le lavis et semblent s'évanouir presque dans la brume à la fois lumineuse et humide qui les enveloppe, avec au premier plan quelques végétaux presque fantomatiques qui se dressent ici et qui forment une sorte de repoussoir et qui contribuent à donner cette idée d'infini et à faire que le vide qui occupe une bonne partie de la peinture, justement, prend forme à ce moment-là. Eh bien, ce type de vision tout à fait extraordinaire qui a été développé par les peintres chinois a évidemment beaucoup nourri les imaginations et stimulé les créateurs de jardins. Et tant en Chine qu'au Japon, mais on pourrait dire aussi la même chose de la Corée et du Vietnam, dans les milieux savants, ce sont souvent les mêmes personnes qui contemplaient ou même quelquefois créaient ces peintures et qui, à d'autres moments, créaient des jardins. Et dans bien des cas, l'art des jardins s'est référé à cet univers de la peinture. Ce qui explique qu'on a cherché à créer aussi dans les jardins procédés qui permettent de créer certaines illusions. Alors, je retourne tout de même ici à la réalité. Nous faisons un petit passage par la Corée. Cette tradition du paysage de montagne et d'eau, elle a été transposée très tôt sous forme matérielle, si je puis dire, en trois dimensions, dans l'art des jardins. Et on sait déjà que dès l'Antiquité chinoise, les grands parcs impériaux et les premiers jardins privés qui ont été aménagés au départ par des aristocrates étaient donc des lieux souvent très vastes qui combinaient du relief modelé et des étangs que l'on creusait. En Corée, cette tradition a sans doute été transmise très tôt. Vous savez que le nord de la Corée est tombé sous la domination chinoise dès la dynastie des Han, donc dès les débuts de notre ère. Et en Corée s'est développé aussi un art des jardins qui est en fait directement dérivé, comme la grande architecture coréenne, de ce qui existait déjà en Chine. Alors je vous montre ici cet exemple pour ne pas laisser la Corée entièrement, pas la passer entièrement sous silence, parce que c'est aussi historiquement un exemple particulièrement intéressant. Il s'agit du jardin qu'on appelle Annapti, ça veut dire mot à mot en coréen l'étang. L'étang aux oies et aux canards. Un titre un petit peu qui peut paraître terre à terre, mais qui fait référence à une autre tradition qui est celle de la vie à la campagne et de la vie paisible que l'on peut mener en se retirant, en échappant notamment à la ville, à la civilisation urbaine et en rejoignant la vie à la campagne. Nous sommes ici dans l'ancienne capitale du royaume de Silla, à Gyeongju, c'est dans le sud-est de la Corée, et on a fait à cet endroit des fouilles archéologiques à partir du milieu des années 1960, et on a retrouvé les contours d'un étang qui ornait donc l'un des principaux jardins de l'époque, qui a été plus ou moins reconstitué ici. Donc, ce que nous voyons, c'est essentiellement une reconstitution. Vous voyez que l'étang a des contours sinueux. Il cherche à donner l'illusion de quelque chose qui existerait de manière naturelle. Les berges ont été créées grâce à la terre qu'on a tirée de l'étang au moment où on l'a creusée. Et puis sont aussi disposées sur les promontoires et sur les îles qui ornent cet étang des rochers. Et l'art de disposer les rochers était donc déjà pratiqué à cette époque. Le bâtiment qui a été aussi reconstitué et qui dominait cet étang, eh bien, reprend la tradition chinoise du point de vue qui est spécialement aménagé pour que un certain type de vision soit offert aux spectateurs. Ça, je crois que c'est assez aisé à comprendre, et vous voyez que ça peut se décliner, ce principe-là, sur de beaucoup de manières différentes et à des échelles très différentes. À l'intérieur des jardins zen du Japon dont je parlais tout à l'heure, le principe du point de vue, on l'utilise mais à une autre échelle, tout simplement. Et au lieu d'avoir en face de soi une vue très étendue, qui irait dans les jardins impériaux presque jusqu'à l'horizon, eh bien on peut aussi choisir de la limiter par un mur, mais de manière à concentrer donc le regard du spectateur sur quelque chose qu'on veut lui donner à voir. Donc ça, le principe du point de vue, finalement, c'est quelque chose qu'on peut modifier et adapter à l'échelle du jardin. Et puis, son complément, c'est le fait que le point de vue lui-même, l'endroit où on peut aller s'installer pour découvrir une partie du jardin, si le jardin est bien conçu, cet endroit-là lui-même, vu d'ailleurs, devient lui-même une autre scène à contempler. Et lorsqu'on voit ce bâtiment avec son reflet dans l'eau, depuis l'endroit où a été prise la photographie, vous vous rendez bien compte que le bâtiment lui-même n'est pas un simple belvédère, il est lui-même un ornement du jardin et constitue à lui-même une des scènes à contempler. Si donc le jardin est réussi, eh bien on va s'arranger pour vous en faire faire le tour à un rythme qui sera savamment calculé en vous faisant passer de ci, de là, en créant des obstacles, en s'arrangeant pour que votre marche soit ralentie à certains moments, pour que vous soyez obligé de vous arrêter, de relever la tête. Et puis, à ce moment-là, vous découvrirez une des scènes qui sont attendues à l'intérieur du jardin. Et très souvent, donc, ces jardins d'Extrême-Orient sont conçus sur le mode d'un programme, avec une série de scènes qu'on découvre dans un ordre qui est calculé d'avance et qui est censé, donc, provoquer certains effets chez le spectateur et le plonger dans un état d'esprit particulier. Donc ce système, si je puis dire, qui avait été mis au point en Chine, a été repris en Corée. Et ici, vous avez une reconstitution sous la forme d'un plan qui me paraissait intéressant de vous montrer, parce qu'on voit bien que l'aspect... c'est le même parc qui se trouve donc à côté de Gyeongju, le parc d'Anapti en Corée. L'architecture traditionnelle, qui est en fait reprise de la tradition chinoise, est une architecture extrêmement rectiligne, symétrique, qui joue sur l'équilibre. C'est une architecture essentiellement de bois. Hein. Ce sont des charpentes de bois qui soutiennent des toitures recouvertes de tuiles, qui sont vernissés dans les palais. Et l'architecture, par essence, elle adopte, si vous voulez, des figures rectilignes. Et par contraste, le jardin qui va compléter cette architecture, qui va l'agrémenter, qui va en constituer le complément, le jardin va lui adopter des lignes sinueuses. Et ce que nous appellerions l'irrégulier, et qui a tant séduit et étonné aussi les voyageurs occidentaux, qui ont découvert cet art des jardins si différent des nôtres, essentiellement à partir du XVIIe siècle. Alors ici, malgré les aspects sinueux du bassin et des îles, on voit que l'essentiel s'inscrit dans un rectangle, parce que, ça n'est pas figuré ici sur le plan, l'ensemble de ces, ce qui était ici une sorte de palais, était en fait enclos d'un mur, et l'enclos dont j'ai parlé tout à l'heure à propos des tout petits jardins des temples zen, il est en fait toujours présent. Même dans les grands jardins impériaux, ces jardins d'Extrême-Orient sont toujours aménagés à l'intérieur d'un enclos, et le fait même qu'ils soient enclos en fait des mondes à part où il est possible de, en quelque sorte, de mieux maîtriser le contenu qui se trouve à l'intérieur des murs, et d'en faire une sorte de microcosme. Il y a cette idée très anciennement ancrée dans la pensée de l'Extrême-Orient et qui a été reprise par différentes traditions religieuses et philosophiques, qu'à l'intérieur du monde, à l'intérieur de l'univers où nous sommes, existe un certain nombre de phénomènes d'équilibre. C'est notamment exprimé par la théorie du yin et du yang. Et cette harmonie de l'univers, il est possible de la recréer en miniature dans un espace qui est enclos et de ce fait contrôlé. Si donc vous avez à votre disposition un terrain quelconque, que vous l'entourez d'un mur et que vous disposez à l'intérieur de cet enclos de manière judicieuse, équilibrée, harmonieuse, divers éléments, eh bien vous parviendrez peut-être, si vous avez du talent, à représenter cet équilibre qui est inhérent à l'univers. Et le fait même de pouvoir recréer artificiellement cette harmonie est une manière d'y contribuer. Et si c'est une résidence que vous aménagez ainsi, le fait même d'habiter cette résidence, d'y vivre, d'être en contact permanent avec ce petit monde à part qui est un modèle d'équilibre, ne pourra être que bénéfique. Et ce sera justement un des moyens, peut-être, de vivre mieux. Alors, toutes ces théories, que je résume ici très rapidement et qui se sont déclinées sous des formes très, très différentes en Asie orientale, une bonne partie en a été reprise par ce que l'on appelle le feng shui, dont vous avez sans doute entendu parler, parce que c'est de plus en plus à la mode en Occident. Feng shui, voilà encore une expression assez difficile à traduire. Elle est faite, je la prononce ici en chinoise, elle est faite de deux mots chinois. Feng, c'est le vent, F-E-N-G, transcription, et shui, c'est le mot que nous avions vu tout à l'heure, qui désigne l'eau, S-H-U-I. Nous avions parlé tout à l'heure, vous vous souvenez, de shan shui, montagne et eau, qui est un terme qui appartient à la peinture. Ici, il s'agit de quelque chose de tout à fait différent. Feng shui, le vent et l'eau. On désigne par ce nom, et on traduit quelquefois par le terme de géomancie, un certain nombre de pratiques, de croyances qui sont répandues depuis très longtemps dans tout l'Extrême-Orient, en particulier en Chine, mais aussi dans les autres pays du monde civilisé. Ce sont des pratiques et des croyances qui consistent à la fois à théoriser la manière dont on peut au mieux s'installer dans l'espace et à vous donner des recettes pratiques sur la manière dont il faut s'y prendre. Alors, quand vous aménagez une maison, quand vous construisez un palais, lorsque vous choisissez le site d'une tombe pour vos ancêtres, très important, il s'agit de s'installer au mieux et de s'intégrer, si je puis dire, au mieux dans cette harmonie qui existe par avance dans l'univers. Donc, le feng shui, c'est l'art d'aller capter, d'aller saisir en quelque sorte la manière dont l'univers exprime son harmonie à un endroit donné, de manière à se fondre et à s'intégrer au mieux à cet endroit-là. Donc le feng shui, les experts du feng shui, il y a des maîtres de feng shui, comme on les appelle en Chine ou au Japon, ce sont des gens qui, souvent à l'aide de calculs très, très compliqués, en utilisant des outils tels que la boussole, vous disent si un terrain est favorable ou pas. Et éventuellement, vous disent si un terrain que vous possédez déjà peut être aménagé de manière plus ou moins correcte, plus ou moins efficace, pour éventuellement contrer des influences néfastes qui pourraient s'y manifester. Alors, je ne sais pas si je suis très clair, c'est assez difficile à saisir, mais on considère depuis, dans la tradition donc chinoise, que dans l'univers circulent des souffles. Je vous ai parlé du yin et du yang tout à l'heure, et le yin et le yang ne sont pas opposés, mais sont des complémentaires. Ils représentent en quelque sorte des phases successives et qui alternent par lesquelles passe l'univers. Et une des manifestations de ce renouvellement permanent, c'est ce qu'on appelle la circulation des souffles, ce qu'on appelle qi en chinois, les souffles d'énergie qui se manifestent autour de nous. Alors, une des manifestations les plus évidentes, eh bien, c'est notamment les montagnes, les grandes chaînes de montagnes qui semblent se dresser tout à coup devant nous. Eh bien, sont une manifestation de forces d'énergie colossales qui circulent à l'intérieur du sol. Et si l'univers donc est parcouru d'énergie, eh bien, le corps humain également, le corps humain est aussi un microcosme, un petit monde à plus petite échelle où circulent aussi un certain nombre de flux d'énergie. Donc partant de cette conception, vous vous doutez bien que s'installer où que ce soit dans l'espace, si vous construisez une maison, j'y reviens, si vous aménagez une tombe ou un palais, et a fortiori, si vous voulez créer un jardin, vous devez tenir compte de ces souffles. Et donc, l'art du feng shui a joué un grand rôle dans la tradition des jardins en Extrême-Orient, puisqu'elle a contribué à façonner ces jardins et à leur donner un aspect particulier. Alors, je parlais tout à l'heure du phénomène de la tradition de l'enclos. Le fait d'enclore un lieu, d'enclore un terrain, c'est déjà une manière de le protéger, de mieux maîtriser la circulation des souffles, on pourrait traduire cela ainsi, à l'intérieur de l'enclos. Et puis, nous avons parlé tout à l'heure aussi de l'aménagement du relief, du creusement des étangs. Eh bien, c'est une manière, artificiellement, de recréer à l'intérieur du jardin ce qu'on peut observer dans l'univers. L'expression même feng shui, donc j'y reviens, le vent et l'eau, vient de ce que les experts de feng shui, lorsqu'ils examinent un site particulier, s'attachent essentiellement à deux choses, à deux types de phénomènes. Le souffle des vents, la circulation des vents, mais lorsque vous vous intéressez aux vents, où sont les vents dominants? Souvent, ces vents sont déterminés par les obstacles qu'ils rencontrent devant eux. Donc, si vous êtes, par exemple, au pied d'une chaîne de montagne, eh bien, vous serez relativement à l'abri des vents. Et puis, on s'intéresse aussi à l'écoulement des eaux, et ce faisant, on s'intéresse à la direction que prennent les eaux, et puis bien entendu au relief. Donc, vent et eau, feng shui, c'est une manière en quelque sorte résumée de dire qu'on s'intéresse à la manière dont se combinent le relief, l'écoulement des eaux, le souffle de l'air, les intempéries, etc. Ce qui joue un rôle fondamental également, c'est l'orientation. Le fait que et comme c'est souvent le cas en Chine, et ça a fini par devenir l'orientation préférée, en quelque sorte, en Chine, surtout si vous êtes en Chine du Nord, il souffle depuis le nord et le nord-ouest des vents, souvent extrêmement froids, qui viennent de la steppe sibérienne, et cette direction-là, la direction du nord, a toujours été considérée plutôt comme néfaste. C'est assez facile à comprendre. De toute manière, on se trouve dans l'hémisphère nord. Et si vous voulez installer une maison, on retrouve l'équivalent dans beaucoup d'autres civilisations, on tourne plus volontiers la façade de l'habitation vers le soleil. Et dans la tradition chinoise, et notamment la tradition chinoise marquée par le feng shui, on a toujours attaché beaucoup d'importance donc à l'orientation des bâtiments en architecture et au fait donc qu'il fallait implanter les constructions humaines et les installations humaines d'une manière qui soit favorable. Alors, disons qu'en général, on se tourne plutôt vers le midi. Mais d'un site à l'autre, évidemment, il faut s'adapter et tenir compte des particularités du lieu. On dirait peut-être chez nous le génie du lieu. Alors, je vous montre ici la reconstitution. C'est un simple dessin. Nous sommes ici au Japon. D'une résidence qui fut aménagée à la fin de l'époque de Heian, c'est-à-dire vers le début du XIIe siècle, dans le nord-est de l'île principale du Japon, de Honshu, et qui était donc une résidence aristocratique qui a par la suite été convertie en un temple, qu'on appelle aujourd'hui le Motsuji. Et qui possède encore un très beau jardin, mais qui n'est plus, évidemment, le jardin du XIIe siècle. Mais là encore, j'ai choisi cet exemple parce que des fouilles archéologiques qui ont été faites récemment ont permis de reconstituer, avec une assez grande sûreté, l'organisation des lieux à l'époque. Et l'on voit ici quelque chose d'assez similaire à ce que nous avions vu en Corée tout à l'heure, des bâtiments qui s'ouvrent, qui tournent en fait le dos ici au nord. Le principal bâtiment ici, c'est celui-là, c'est celui où résidait le maître de maison, si je puis dire, dans ce qu'on appelait en japonais à l'époque le shinden, c'est-à-dire la chambre à coucher, mot à mot. Ce shinden était normalement toujours tourné vers le sud. Il était construit donc sur une plateforme surélevée et ouvrait vers le sud, sur une partie dégagée, où on pouvait souvent organiser des fêtes ou des réunions, et puis un étang, l'étang qui nous est maintenant familier et qui était souvent agrémenté d'îles. On pouvait d'ailleurs, si on avait la place, y circuler en bateau. Et une bonne partie du jardin qui était aménagé donc sur les berges de cet étang et sur les îles, qui est évoqué ici par quelques arbres, eh bien, se découvrait d'ailleurs depuis le bateau qui y circulait. On pouvait également s'en rapprocher en circulant dans des galeries qui menaient jusqu'à des sortes de pavillons avancés, qu'on appelait quelquefois le pavillon de la pêche, et qui évoquaient de manière poétique l'idée qu'on pouvait aller s'en aller pour une partie de pêche vers le jardin, si vous voulez. Donc la résidence, ici une résidence aristocratique, était conçue très tôt comme devant, si on en avait les moyens, devant être complétée par un jardin qui essentiellement devait avoir des contours sinueux, mais qui, si vous m'avez bien compris, suivait donc un certain nombre de règles très précises dans son aménagement. Alors, au Japon, cette tradition va connaître une fortune particulière et va prendre quelques accents typiquement japonais du fait que le Japon, d'abord, est essentiellement un pays maritime. En Chine, très souvent, l'univers des jardins évoque plutôt la campagne, l'aspect rustique de la vie dans les provinces reculées, voire la vie des montagnes, dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure. Mais au Japon, on a toujours été très sensible aussi au fait, lorsqu'on évoquait des îles, par exemple, au fait que eh bien, lorsque vous êtes dans l'archipel japonais, évidemment, vous êtes sans cesse environné par la mer, jamais très loin d'elle, et que le Japon, naturellement, possède de très beaux paysages, comme ici celui très célèbre de Matsushima, qui se trouve sur la côte est de l'île de Honshu, qui est un des lieux, des quelques lieux très célèbres répertoriés depuis très longtemps dans la tradition japonaise, comme l'un des quelques lieux qu'il faut avoir vus au Japon, et qui sont justement de très belles îles plantées de pins qui se détachent sur la mer à l'est du Japon. Et des paysages qui existent de manière naturelle et qui ont été chantés par les poètes, décrits dans la littérature tout au long de l'histoire du Japon, ont aussi évidemment servi de référence lorsqu'on a cherché à aménager des jardins. Je fais ici une brève incursion aussi au Vietnam. Pour ne pas laisser totalement le Vietnam de côté, je voudrais tout de même en dire un mot. La tradition du feng shui, dont j'ai parlé tout à l'heure, et le fait d'aménager les résidences en les complétant de ce que nous appellerions des jardins. C'est aussi transmis au Vietnam. Et si vous allez visiter l'ancienne citadelle de Hue, aujourd'hui au Vietnam, qui a été aménagée par la dernière dynastie impériale donc dans ce pays, eh bien vous retrouvez, sur un mode évidemment un petit peu différent, puisqu'on s'est adapté au climat, aux végétaux qui existent sur place, et notamment à l'eau qui est ici extrêmement abondante, eh bien on a aussi aménagé donc des résidences qui tiennent compte des règles d'orientation, qui sont en close et qui offrent en complément des bâtiments de résidence des étangs autour desquels on peut circuler. Alors, c'est un petit peu différent, évidemment, et on n'y songe pas tout de suite, et on peut penser qu'on a affaire à des univers très différents, mais il y a tout de même, malgré tout, en tout cas, des liens de parenté entre ces différents mode d'aménagement de l'espace. Alors, je reviens au Japon et je vous montre ici l'un des monuments les plus célèbres du Japon. Il s'agit du Byodo-in. Il s'agit aussi d'une ancienne résidence aristocratique qui a été aménagée en 1053 donc de notre ère et qui est l'un des très rares bâtiments qui soit encore debout, bâtiment en bois et sans structure en bois, qui a été donc, qui ornait à l'époque un jardin aristocratique qui se trouvait dans une résidence au sud de la capitale impériale de Kyoto, à Uji. Et c'est le bâtiment que vous voyez là, avec ses toits recourbés à la chinoise, est aussi une transposition par les Japonais de traditions qui viennent à l'origine de Chine. Donc il y a véritablement, si vous voulez, une origine commune à tout cela. Et vous retrouvez ici, devant le bâtiment, le type d'aménagement que j'ai évoqué tout à l'heure, le rivage sinueux d'un étang qui est aménagé devant le bâtiment. Le bâtiment lui-même domine l'étang, comme le Shinden donc, que je vous ai montré tout à l'heure. Il est lui-même une sorte de belvédère d'où on va pouvoir contempler l'ensemble du jardin. Mais à rebours, vous voyez que le bâtiment lui-même est bien entendu fait aussi, conçu comme un ornement du jardin et comme quelque chose qui est fait pour être vu depuis la rive opposée et offrir à son tour une scène à part. Alors, le Byodo-in, pardon, est un cas particulièrement intéressant pour nous parce que c'est l'exemple type d'une résidence particulière au départ. Il s'agissait de la résidence d'un grand aristocrate qui faisait partie de la famille des Fujiwara, une grande famille qui dominait le Japon de l'époque, et qui a été convertie, elle a d'ailleurs été conçue pour cela dès le départ, en temple. Très souvent, alors dans le cadre du bouddhisme, des personnages puissants qui avaient de grandes fortunes et qui s'aménageaient souvent de somptueux palais, eh bien faisaient en même temps le vœu que, souvent à leur mort, leur résidence devienne un monastère et soit en quelque sorte un don fait à une communauté, à la communauté bouddhique. Et c'était un moyen d'ailleurs d'assurer leur salut, en quelque sorte, puisque c'était, comme on le dit dans le bouddhisme, une manière d'acquérir des mérites. Ce qui explique que ce bâtiment du Byodo-in ait traversé les siècles et que, après être tombé, en quelque sorte, dans l'oubli pendant plusieurs siècles, il a pu être redécouvert au début du XXe siècle. Alors, j'ai un peu peur que ici la photo ne soit trop sombre avec la lumière qui est dans la pièce, mais la salle principale du Byodo-in, donc le pavillon central que vous venez de voir à l'instant, abrite en fait une très grande statue en bronze du Bouddha Amida, qui est la transposition japonaise d'Amitabha dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Bouddha de l'Ouest qui règne sur un paradis lointain dans un monde autre, où ses fidèles espèrent renaître un jour. On a représenté, en fait, dans ce qui est une sorte de chapelle, le Bouddha Amida qui trône, en fait, à l'intérieur de ce bâtiment et qui domine le jardin. Alors, je ne sais pas si c'est visible, mais je crois que vraiment c'est trop sombre, mais il y a ici une ouverture circulaire à l'intérieur du panneau de la porte et on devine peut-être la silhouette de la tête de cette statue colossale, vous voyez, par rapport à l'échelle des personnes qui se trouvent devant, qui en fait domine l'étang. Ici, c'est la statue du Bouddha Amida qui se trouve dans la position du maître de maison, c'est lui qui occupe le centre de la maison, si je puis dire, et qui domine, qui contemple le jardin. Et le jardin qu'il est en train de contempler, c'est en quelque sorte la représentation terrestre dans notre univers à nous, de ce monde paradisiaque sur lequel il est censé régner. Et il y a donc ici un lien très fort entre l'architecture particulière, l'architecture destinée aux vivants, et l'architecture religieuse. Et ça explique pourquoi, par la suite, les jardins zen dont je parlais tout à l'heure seront eux-mêmes les héritiers de cette tradition du monde des jardins. Alors, je ne résiste pas aussi au plaisir de vous montrer, même si les photos ne sont peut-être pas excellentes, deux grands chefs-d'œuvre du jardin japonais. Vous avez reconnu, je pense, le fameux pavillon d'or, un Kinkaku, qui a donné son nom aujourd'hui, son nom au temple où il se trouve à Kyoto, Kinkaku-ji, le fameux pavillon d'or, qui est justement un des témoins de cette vogue des jardins souvent somptueux qui ont été aménagés au cours de l'histoire du Japon. Ici, nous sommes à l'époque Ashikaga, à la fin du XIVe siècle, c'était ce qu'on appelait à l'époque le shogun, donc le personnage au Japon qui dirigeait les affaires politiques, alors que l'empereur ne faisait que régner nominalement. Le shogun de la famille donc Ashikaga, à l'époque, avait décidé, typiquement, à la fin de sa vie, de se retirer, plus ou moins, de la ville politique, de se faire aménager une somptueuse résidence au nord de la capitale impériale, sur ce qu'on appelait les collines du nord, Kitayama, et de faire aménager donc une résidence qui devait devenir également un temple à sa mort, ce qu'il est devenu, et qui était orné notamment d'un magnifique étang aux contours sinueux, parsemé d'îles et de rochers, et dominé par ce pavillon tout à fait extraordinaire qui était en partie donc recouvert à la feuille d'or, avec toujours le principe que le pavillon lui-même offre bien entendu un point de vue calculé sur l'étang, mais il consiste lui-même en un tableau qui est fait, il forme lui-même une sorte de tableau qui est fait pour être contemplé et découvert depuis l'intérieur du jardin au fur et à mesure que l'on circule sur l'étang. Alors, lien aussi entre donc résidence particulière et religion, puisqu'à l'intérieur de ce pavillon était aussi aménagée une chapelle bouddhique. Et j'allais dire son pendant, mais qui a été construit quelques 80 ans plus tard, le fameux pavillon d'argent, qui a été construit par le petit-fils Yoshimasa, Yoshimitsu, à partir de 1466, le pavillon d'argent qui orne les jardins d'un autre temple de Kyoto, qu'on appelle ainsi par comparaison au temple d'argent. La légende veut qu'il aurait ce pavillon aurait été destiné à être recouvert entièrement de feuilles d'argent. En réalité, il ne l'a jamais été, mais il est aussi la réalisation donc d'un pavillon qui domine, qui est en quelque sorte le clou du spectacle, à l'intérieur d'un jardin savamment composé, ici sur les collines à l'est de la capitale impériale, à l'est de Kyoto, et qui domine un étang. Donc le pavillon se reflète dans l'eau et il offre lui-même des points de vue sur les îles de rochers plantés de pins qui ornent l'étang. Alors l'un des thèmes favoris que l'on retrouve très souvent dans les jardins du Japon et qui vient lui aussi de Chine, c'est le thème de l'île de la tortue et de l'île de la grue. Très souvent, on aime voir dans ces îles et dans leur forme ou la façon dont elles sont plantées ou agrémentées de rochers, on aime lire des formes que l'on reconnaît, et très souvent, celle auxquelles on se réfère, c'est celle de la tortue. La tortue, c'est une des images de l'univers équilibré et organisé. Vous savez que la tortue, avec le plastron de sa carapace, représente la Terre. La forme arrondie au-dessus de la carapace, c'est la voûte céleste. Et avec ses quatre pattes et son axe central, elle est en quelque sorte la transposition sous forme d'animal d'un univers parfaitement équilibré. La grue, elle, de son côté, est une évocation de la monture des immortels. Les immortels taoïstes voyagent dans les nuées en chevauchant des grues. Et ce sont très souvent donc ces thèmes très imagés qui sont évoqués non seulement dans les jardins japonais, mais aussi donc dans les jardins qui ont constitué en Chine l'univers favori souvent des lettrés. Alors, je voudrais maintenant parler un petit peu plus de la Chine, puisque nous avons passé pas mal de temps au Japon. Le Japon a bien entendu, tout au long de son histoire, connu des développements propres de son art des jardins, en empruntant à différentes époques, comme il l'a fait dans d'autres domaines artistiques, au monde chinois. Et donc, si l'on voulait étudier uniquement les jardins japonais, une manière possible de les aborder, ce serait justement de regarder à quelles époques quels emprunts ont été faits à partir du monde chinois, comment ces emprunts ont été adaptés, transformés au Japon. Et on pourrait faire de même pour les jardins de Corée ou du Vietnam. Et en Chine même, eh bien, évidemment, la tradition des jardins n'est pas non plus unique. Je vous ai pratiquement uniquement parlé tout à l'heure de la tradition des jardins impériaux, donc la tradition des jardins souvent les plus somptueux, des jardins à grande échelle. Mais ces jardins impériaux ne représentent en Chine qu'une partie de la tradition de l'art des jardins. Ils se sont souvent eux-mêmes inspirés des jardins beaucoup plus modestes et beaucoup plus réduits qu'on appelle souvent les jardins de lettrés. Alors, et souvent les Chinois aiment à opposer les jardins impériaux et qu'on associe souvent à la région du Nord. Pourquoi ? Essentiellement parce que les jardins impériaux qui existent encore aujourd'hui sont essentiellement en Chine du Nord, dans la région de Pékin. Un certain nombre de capitales au fil de l'histoire de Chine se trouvaient plutôt en Chine du Nord. Et on oppose à cette tradition donc plutôt septentrionale et plutôt impériale celle des lettrés qui est, elle, associée au sud, aux régions essentiellement qu'on appelle en chinois le Jiangnan, c'est-à-dire au sud du fleuve, sous-entendu le fleuve bleu, le Yangtze-Kiang, donc à quelques 1300 km au sud de Pékin, si vous descendez vers la région qui est aujourd'hui celle de Shanghai, eh bien, au sud du fleuve bleu s'étendait une région complètement différente du point de vue du climat, où depuis très longtemps, depuis l'Antiquité chinoise, une région qui était renommée pour son grand raffinement et son très haut niveau de culture. Ça explique pourquoi, très souvent, on se référait aux traditions de cette région comme à celle d'un univers particulièrement raffiné. Une autre raison qui a fait que cette région a souvent beaucoup attiré les lettrés chinois et les personnes cultivées, c'est que la dynastie des Song s'est installée pour sa deuxième capitale dans la ville de Hangzhou, qui est aujourd'hui la capitale de la province du Zhejiang, lorsqu'elle a dû capituler devant les barbares venus du nord. Et donc il y a eu, à cette époque-là, en 1127 pour être précis, mais à d'autres moments de l'histoire de Chine, de grands moments de brassage, si vous voulez, entre des éléments de culture qui étaient plutôt ceux de la Chine du Nord et ceux de la Chine du Sud. Alors, c'est la raison pour laquelle, très souvent, aujourd'hui, en Chine, lorsque on veut évoquer des lieux particulièrement agréables, particulièrement beaux, où l'on aimerait vivre, eh bien, on évoque essentiellement deux villes. La ville de Hangzhou, que je viens d'évoquer, qui a été la capitale des Song du Sud entre 1127 et 1279, et qui a notamment été décrite par Marco Polo, qui l'a visitée un peu plus tard, au moment où elle était tombée aux mains des Mongols, mais qui l'a décrite d'une manière absolument, en étant comme éblouie. Donc Hangzhou, qui était une ville magnifique, au bord d'un vaste lac qu'on appelle le lac de l'Ouest, qui est l'un des sites les plus célèbres de Chine. Et puis une autre ville dont vous connaissez sans doute le nom, qui est Suzhou. Suzhou, qui se trouve dans la province du Jiangsu, en réalité pas très loin au nord de Hangzhou. Et Suzhou, qui, elle, a été aussi un centre culturellement extrêmement important pendant des siècles. Principalement aussi pendant, depuis les deux dernières dynasties impériales, sous les Ming et les Qing. Hangzhou, Suzhou, ce sont des noms qui semblent rimer tout simplement, qui se terminent par le mot Zhou, qui désignait une sous-préfecture, un type de un rang dans la hiérarchie des villes en Chine. Et on pourrait aussi citer la ville de Yangzhou, dont vous voyez ici une vue, qui se trouve aussi dans la province du Jiangsu, et qui a été particulièrement célèbre au XVIIIe siècle pour ses jardins. Il y a un proverbe chinois qui dit « Au ciel, il y a le paradis, sur terre, il y a Hangzhou et Suzhou ». Vous voyez, c'est tout dire. Et si vous étiez un lettré fonctionnaire travaillant pour l'empereur, sous les Ming ou sous les Qing, et que vous choisissiez de vous retirer de la vie politique, souvent à la suite d'une disgrâce ou simplement parce qu'il était nécessaire par moment de prendre un peu de recul, eh bien l'idéal aux yeux de ces lettrés chinois, c'était d'aller se retirer dans l'une de ces villes où l'on pouvait s'adonner aux activités favorites des lettrés, la poésie, la peinture, la musique, assister à des spectacles de théâtre et surtout s'aménager, si on en avait les moyens, une belle résidence avec un jardin. Et donc ces lieux de la basse vallée du Yangtze en Chine, de la région du Jiangnan, sont devenus petit à petit, en quelque sorte, le lieu de référence, celui des grands jardins classiques, pour les empereurs eux-mêmes. Et lorsque les empereurs de la dynastie Manchu, dont je suis parti tout à l'heure, créent leur grand jardin, leur grand palais d'été au XVIIIe siècle, eh bien, ils se référeront à la tradition des jardins privés de lettrés, tels qu'ils ont été conçus depuis plusieurs siècles déjà en Chine du Sud. Alors la Chine du Sud, ce que les Chinois appellent la Chine du Sud, ici donc le Jiangnan, est une région, donc je vous le disais, particulièrement humide, très chaude en été, et c'est une région que souvent on parcourait, en tout cas dans le passé, par voie d'eau. Et lorsque l'empereur Qianlong, le grand empereur qui régnait sur la Chine au XVIIIe siècle, se rendait en tournée d'inspection dans les provinces du Sud, une bonne partie de son voyage se faisait justement sur l'eau. Et on le faisait débarquer donc, au milieu de la ville de Yangzhou, dans des endroits comme celui-ci, et on lui faisait ensuite visiter, en bonne partie en barque, les jardins qui ornaient le pourtour d'un grand lac qui donc s'étendait devant la ville. Alors, voyez qu'ici, à une autre échelle encore, à l'échelle de l'aménagement urbain, certaines de ces très belles villes du sud de la Chine reprenaient aussi un certain nombre de principes de l'art des jardins. C'est-à-dire que les lieux de résidence, l'habitat même des gens, étaient complétés par des jardins, des lieux où il faisait bon se promener et où on pouvait échapper en quelque sorte à la rigueur de l'architecture trop symétrique et trop rectiligne. Alors, on naviguait donc en bateau. Ici, je vous montre une des embarcations qu'on peut encore voir aujourd'hui sur le lac de l'Ouest à Hangzhou. Je vous ai parlé tout à l'heure des pavillons fixes, hein, des bateaux qui étaient en réalité des pavillons construits et ancrés pour toujours au fond de l'eau, mais il existe aussi des embarcations sur lesquelles on circule. Et le fait de pouvoir se rapprocher, s'éloigner de ce que l'on veut donner à voir, stimule évidemment l'imagination du spectateur. Alors, à l'intérieur même des jardins de plus petite dimension, je vais vous montrer quelques exemples très célèbres là aussi, ils sont pris essentiellement dans la ville de Suzhou. Si vous voulez visiter les jardins les plus célèbres de la tradition classique en Chine, c'est à Suzhou, je crois, qu'il faut d'abord aller. Alors, peut-être le plus célèbre, c'est celui qu'on appelle le jardin du politicien malchanceux. On traduit aussi quelquefois ce nom par jardin de la politique des simples, Zhuozhengyuan. Souvent, les noms de ces jardins sont des noms poétiques à clé. Ce sont des noms qui ont plusieurs significations possibles. Alors, si on comprend jardin du politicien malchanceux, ça fait allusion à la position du propriétaire qui avait fait aménager ce jardin et qui voulait sous-entendre par là qu'il n'avait peut-être pas très bien réussi dans la carrière politique de mandarin qu'il menait, mais qu'il avait pu trouver en quelque sorte un havre de paix dans son jardin. Et ces jardins de Suzhou sont précisément donc essentiellement des jardins urbains à l'intérieur de la ville ou à proximité de celle-ci, toujours enclos, possédant toujours normalement un étang qui forme la figure centrale, autour duquel on circule, en passant d'un pavillon à l'autre ou en circulant dans des galeries couvertes, comme celles que vous voyez ici. Alors, un autre jardin extrêmement célèbre est le Liouyuan. Liu, c'est le nom de famille d'un des propriétaires de ce jardin, mais ça fait également jeu de mots avec un autre caractère Liu qui veut dire s'attarder. Flâner, en quelque sorte. Donc, mot à mot, Yuan, c'est le jardin. le jardin où l'on s'attarde, le jardin où l'on peut flâner. Et ce qui fait, je crois, la grande réussite de ces jardins, c'est la manière extraordinaire dont ils arrivent à combiner ce que je vous disais tout à l'heure, le fait qu'on crée une promenade très variée, bien que l'espace soit en fait extrêmement réduit, l'espace disponible, en créant à la fois des points de vue très différents les uns des autres, où l'on vous mène de manière calculée d'avance, de manière à provoquer certaines réactions, certains effets, et à faire en sorte en même temps que ces points de vue eux-mêmes deviennent des choses agréables à regarder lorsqu'on les contemple depuis un autre endroit. Alors, on en voit ici un exemple. Ce qui est caractéristique de ces jardins de Suzhou, c'est aussi les murs blanchis. On crée également des petits pavillons au milieu de l'eau, comme celui-ci, qu'on atteint par un pont en zigzag. Alors ça, c'est en quelque sorte une des figures les plus célèbres du jardin chinois. Ici, on se trouve dans le jardin Shezhen à Suzhou, qui est un jardin très connu pour ses rocailles, ses rochers amoncelés, qui évoque des lions, dans lesquels on peut voir, avec un peu d'imagination, des têtes ou des corps de lions. Donc, en se rendant dans ce petit pavillon, eh bien, non seulement on s'avance évidemment sur l'eau, on entre dans un monde encore différent et plus éloigné, et on est à même de découvrir autour de soi cette très étonnante rocaille. Et le petit pont en zigzag est sans doute un souvenir aussi des traditions du feng shui, puisqu'on dit que les esprits malins, dans les traditions populaires, on dit que les influences néfastes sont en quelque sorte des esprits malins, des esprits néfastes. Ils ne se déplacent qu'en ligne droite. Et donc une manière de s'en protéger, c'est de créer des chicanes et des zigzags. Donc ce qui était déjà développé dans l'architecture chinoise traditionnelle a été transformé ici en une figure, si vous voulez, choisie pour son effet esthétique, avec toujours ce goût donc pour le sinueux et l'irrégulier. Alors j'ai beaucoup parlé d'eau, il me semble, ce matin, mais s'il faut être équilibré, il faut revenir aussi aux rochers et aux montagnes. L'autre aspect très important, j'en parlais à l'instant avec les rocailles du Shezhen, c'est évidemment la vie dans la montagne, la vie dans les antres, dans les grottes, comme disent les lettrés chinois. Et on évoque aussi dans la tradition chinoise le monde des ermites, de ceux qui s'éloignent du monde des hommes pour vivre justement au contact, au rythme de la nature. Et une des formes de vie idéale pour le lettré chinois, c'est justement la retraite dans la montagne. Alors, faute de pouvoir le faire ou d'avoir le courage de le faire réellement, eh bien, on peut toujours choisir de vivre une vie d'ermite dans son jardin. Et à cette feuille d'album de Shetao, donc le grand peintre du XVIIe siècle, qui évoque ici justement le peintre, poète, lettré, retiré dans son petit ermitage au sein de la montagne, eh bien c'est souvent ce qu'on a essayé de reproduire à l'intérieur des jardins. Alors peut-être l'un des plus beaux jardins de Suzhou, c'est le jardin du maître des filets, Wang Sheyuan. Maître des filets, c'est aussi une appellation à plusieurs sens possibles. Le maître des filets, c'est une manière ironique sans doute de désigner celui qui tire les filets, les ficelles en quelque sorte. Hein. Mais aussi, c'est le pêcheur. Le maître des filets, c'est celui qui utilise les filets pour pêcher le poisson. Et le pêcheur est aussi une des figures dans la tradition chinoise de l'homme qui vit une vie paisible au fil de l'eau. Vous savez qu'en Chine, il y a toute une tradition, toute une population qui vit sur les cours d'eau et qui vit de la pêche. Et ça a été souvent utilisé et chanté dans la poésie chinoise et donné comme un exemple de vie qu'on rêve de vivre. Et bien de la même manière, dans les jardins, on voudra évoquer cet univers-là. Je vous ai d'ailleurs parlé tout à l'heure, je crois tout à l'heure, pour le Japon, des pavillons de la pêche, dans les jardins de style Shinden. Et ce qui est tout à fait particulier à ces jardins de Suzhou, c'est le goût pour les rochers, aux formes tout à fait extraordinaires, tortueuses, souvent percées. Ce sont les fameux rochers du lac Tai. À proximité de Suzhou, il y a un grand lac, d'où son nom, lac Tai, c'est ce que ça veut dire, où l'on trouve des rochers aux formes curieuses. qu'on s'est attaché à, j'allais dire, à peaufiner, à sculpter de manière encore plus saisissante, en les immergeant pendant quelquefois des années à des endroits qui sont connus dans le lac pour être agités par des courants. Et donc, au bout de quelques années, vous repêchez le rocher que vous aviez choisi et vous obtenez ainsi des formes tout à fait extraordinaires où l'on peut, avec un peu d'imagination, lire ou voir un tas de choses. Vous voyez peut-être ici une sorte de visage monstrueux, grimaçant. Et ces rochers sont ensuite disposés, pour les plus saisissants d'entre eux, à des lieux choisis à l'intérieur des jardins, justement, à la fois, évidemment, comme des objets à regarder, et aussi des éléments où se manifestent ces souffles d'énergie qui, donc, circulent dans la nature. Le fait que ces rochers aient des formes particulièrement intéressantes sont le signe que s'y concentrent d'une manière particulièrement forte ces flux d'énergie naturelle. Et le fait de les disposer autour de vous et de vivre à proximité ne peut être que bénéfique. Nitsan, qui était l'un des grands lettrés chinois au XIIIe siècle, disons, qui était un excentrique, comme quelques-uns de ses lettrés, appelait certains rochers ses frères. Et on disait qu'il s'adressait à eux comme à des êtres vivants. Et donc, ces rochers sont aussi un moyen de vivre au contact avec la nature. Alors, je vous montre ici un dessin montre ce qu'on ne voit jamais. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans les sites touristiques, c'est-à-dire la possibilité de voir d'un seul coup d'œil l'ensemble du jardin. Ici, c'est le jardin du maître des filets. En réalité, vous voyez que ce jardin, il est constitué essentiellement d'une série de pavillons. La plupart se trouvent ici, dans la partie droite, et ils enserrent un étang central, qui est la pièce centrale du jardin, est lui-même coupé d'une arrière-cour, ici avec un petit pavillon que je vous ai montré tout à l'heure, où se trouvait en quelque sorte le cabinet de travail, le cabinet de lecture, le cabinet du lettré, où le maître de maison pouvait se retirer encore plus loin, encore à part. Et en réalité, ce que nous voyons là, et ce qui ne serait jamais possible d'embrasser d'un seul coup d'œil, puisque le principe même de ces jardins, c'est qu'on les découvre de manière très, très progressive, cet ensemble-là n'est en fait qu'une partie d'une résidence plus vaste encore, qui est aménagée sur le mode des maisons traditionnelles chinoises, extrêmement régulières, symétriques, avec des cours successives. Et l'aspect irrégulier, sinueux de ce jardin est fait justement pour contraster au plus haut point avec la régularité de l'architecture. Alors, je vois que le temps passe et je crois que le mieux, ce serait peut-être... je vous montre encore deux choses. Et peut-être qu'après, on laissera un petit peu de temps pour des questions. Ici, nous sommes donc toujours à Suzhou. Vous voyez que les galeries elles-mêmes par lesquelles on circule sont des galeries qui sont sinueuses et jusqu'au toit qui les coiffent. Ici aussi, une photo prise avec un grand angle qui montre la cour intérieure du jardin du maître Lay, où vous avez en fait deux pavillons ici qui se font face. Lorsque vous êtes dans l'un, ici, vous voyez en fait le pignon ici en forme, qui évoque d'ailleurs la forme d'une montagne, que vous avez peut-être vu sur une photo tout à l'heure, et le petit pavillon qui se trouve devant. Donc voilà la scène qu'on vous donne à contempler. Et lorsque vous aurez fait tout le tour de l'étang, par de multiples détours, eh bien, vous parviendrez à ce moment-là à ce pavillon que vous aviez découvert de loin, et lui-même vous donnera une vue en retour sur une autre partie du jardin par laquelle vous étiez passé. Ici, l'étang beaucoup plus vaste du jardin du politicien malchanceux qui utilise, lui, beaucoup plus les végétaux. Alors, j'ai parlé très peu ce matin des végétaux, ça n'est pas du tout par oubli, mais parce que je crois, ça mériterait certainement une conférence à part. Et assurément, certains végétaux sont extrêmement importants dans les jardins chinois. On pourrait parler du bambou, on pourrait parler du lotus, des fameux saules, des saules pleureurs, qui se penchent sur les eaux et qui sont d'ailleurs un élément d'origine chinoise qui a été importé dans nos jardins à partir du XVIIIe siècle, on l'ignore souvent. En réalité, même si les végétaux dans certains jardins, évidemment, jouent un rôle très important, la structure même du jardin, c'est avant tout la montagne et l'eau. Les végétaux, ce sont comme les bâtiments, des éléments qui viennent ensuite garnir, si je puis dire, cet environnement. Alors, lorsqu'on se trouve dans une région comme celle du Jiangnan, où la culture des végétaux est particulièrement facile, où on dispose de beaucoup d'eau, on peut évidemment les multiplier et les faire varier selon les régions où l'on se trouve. Voilà. Et donc, je voudrais aussi ajouter un mot sur un autre aspect de ces jardins de l'extrême-orient qui nous est bien connu, qui est ce que nous connaissons sous le nom japonais de bonsai. Alors, deux choses ici qui expliquent le choix de la photographie. Vous avez peut-être vu dans des photos que je vous ai montrées antérieurement, repérer ces portes circulaires qui sont typiques des jardins de lettrés chinois qu'on appelle les portes de lune en Chine parce qu'elles évoquent la forme de l'astre lunaire. La lune, c'est aussi, dans la mythologie chinoise, par excellence, un des éléments qui invitent au rêve. Et beaucoup de ces jardins sont en partie faits pour être parcourus de nuit, au clair de lune, et on attache beaucoup d'importance à la lumière de la lune, au reflet de la lune dans l'eau, au fait que l'on peut se pencher sur l'eau pour cueillir en quelque sorte la lune, etc. Il y a toute une poésie qui a été développée en Chine sur ce thème. Faire une porte en forme de lune, c'est aussi une manière de marquer que, en la franchissant, vous aurez accès à un monde différent. Voyez, et la lune elle-même, le cercle, c'est aussi un enclos à sa manière. Et ce que nous voyons à travers, et ce que la porte ici permet de cadrer, et ça c'est une technique qu'on utilise beaucoup dans ces jardins d'Extrême-Orient, le fait d'encadrer une chose sur laquelle on veut attirer votre attention, ici c'est ce que nous appellerions un bonsai, en utilisant le mot japonais, c'est-à-dire un de ces arbres qui sont cultivés en miniature dans un pot. C'est ce que veut dire bonsai à l'origine. Technique d'origine chinoise, là encore, au moins depuis la dynastie des Tang, depuis le 7e, 8e siècle de notre ère, on a développé en Chine l'art de nanifier, si je puis dire, certains végétaux et de composer dans des pots ou sur des plateaux des petits paysages en miniature. Alors on peut recréer tout un paysage. Vous avez certainement vu déjà la version chinoise des ce qu'on appelle en chinois « penjing », c'est-à-dire « chose à voir qui est disposée dans un plateau ». On peut recréer tout un paysage en miniature, avec des petits ponts, des petits bassins, petits pavillons, etc. Et en réalité, le penjing, c'est une version du jardin, mais encore plus réduite, à échelle encore plus petite. Et puis, on peut aussi épurer les choses et choisir de ne cultiver qu'un seul arbre. Ça s'est pratiqué en Chine pendant des siècles, mais les Japonais sont assez maîtres dans l'art de contrôler la croissance de certains arbres. Mais la tradition est encore très vivante aujourd'hui en Chine, également en Corée et dans une bonne partie de l'Asie du Sud-Est. Et donc le fait de contraindre cette plante à prendre des formes justement sinueuses, recourbées, un peu comme les rochers dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une manière aussi de concentrer l'énergie et de les rendre plus manifestes à l'intérieur de ce petit enclos, de ce petit monde, de ce microcosme parfaitement maîtrisé, qui est le pot. Et donc le fait de cultiver ces végétaux, qu'on appelle donc les bonsai au Japon, et qui ont sans doute été une des premières manières d'exporter le jardin d'Extrême-Orient jusque chez nous, celui-ci est un bonsai réalisé en France et qui combine justement un arbre réduit avec un de ces petits rochers miniatures, eh bien, en imagination, on peut se projeter et en contemplant cet arbre, s'imaginer soi-même à l'échelle de l'ensemble. Faute de posséder un jardin, faute d'en avoir un, vous pouvez toujours au moins cultiver quelques bonsaïs et les disposer chez vous, dans votre environnement immédiat, quotidien. Et le fait d'être environné de ces petits microcosmes où se dégage à forte concentration l'énergie de l'univers ne pourra être que bénéfique pour celui qui s'en entoure. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Et peut-être qu'il nous reste encore quelques minutes, je ne sais pas, pour d'éventuelles questions, puisqu'on avait promis de laisser un petit peu de temps. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est évidemment difficile de... on ne peut pas tout dire. Il y a certainement beaucoup d'aspects de ces jardins de Chine et du Japon dont je n'ai pas eu le temps de parler ce matin, mais sur lesquels vous avez peut-être des interrogations. Je ne sais pas.
Merci. Anita Tiraspolsky, formation continue Langzhou. Je voulais revenir sur votre art de feng shui, parce que ça semble être à l'origine quand même des jardins, où je ne sais pas comment philosophiquement vous le percevez, parce qu'au fond, énormément de cultures ont cet art de maîtriser, de se placer dans l'espace. Et je pense que c'est des mouvements qui viennent d'Asie, hein, étant donné de la chronologie, mais si on prend la Sibérie, les peuples sibériens, l'espace russe, c'était une lutte permanente entre les mouvements terrestres et les vents. Et je pense qu'en Afrique, que je ne connais moins bien, vous avez ces mêmes phénomènes. Ça ne se traduit pas par des jardins parce que ça ne pousse pas, tout simplement. Et que même la concentration du jardin en Sibérie, vous ne l'avez pas. Enfin, la possibilité du jardin.
C'est vrai. Alors, il y a deux choses très importantes dans votre question. Vous avez raison d'attirer notre attention là-dessus. Le fait d'abord qu'il n'y a pas des jardins partout dans le monde. Il y a des lieux qui se prêtent plus ou moins à l'aménagement des jardins, à la culture de certaines plantes, etc. Alors, pour ce qui est de la tradition du feng shui en Chine, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que ce soit à l'origine des jardins. Ce qui est sûr, c'est que le feng shui en Chine est une tradition ancienne et qu'elle a énormément influencé, à divers degrés, selon les époques, la façon de s'installer dans l'espace. Et l'art des jardins est l'une des manières d'aménager l'espace. Donc on peut s'attendre, surtout pour les périodes les plus récentes, disons depuis la dynastie des Song, en gros depuis l'an 1000 de notre ère, époque à laquelle le feng shui est véritablement devenu une sorte de science tout à fait codifiée avec essentiellement transmission orale de maître à disciple, mais aussi des manuels et des règles très précises. Étant donné que le feng shui a pris énormément de place dans la tradition chinoise, on doit s'attendre à ce que dans les jardins, il ait eu de l'importance. Mais l'art des jardins est certainement bien antérieur à ça. Et donc, pour essayer de répondre à votre question, on trouve certainement des choses un petit peu équivalentes ou qui y ressemblent beaucoup dans d'autres parties du monde. D'ailleurs, la façon dont on a traduit feng shui par géomancie n'était que la reprise dans l'antiquité gréco-romaine. Il existait une géomancie, c'est-à-dire des techniques de divination qui permettaient de tirer certains présages de la manière dont, par exemple, une poignée de cailloux lancée sur le sol retombait. Donc c'était la manière de lire, si vous voulez, à partir des signes que fournissait la terre. Et je crois qu'en Afrique, domaine que je connais très mal, il y a aussi toute une tradition très particulière, en Afrique noire, subsaharienne, toute une tradition dite géomantique. Ce qui est particulier à la Chine, c'est que ça a été codifié, souvent en école, un petit peu comme les arts martiaux, si vous voulez, avec souvent des ramifications selon les régions, des traditions différentes, qui font que d'un bout à l'autre de la Chine, les façons de s'adapter ne sont pas toujours les mêmes. Et puis aussi le fait qu'en Chine, donc, ce feng shui a souvent été aussi combattu, critiqué, par des lettrés, disons, rationalistes, qui disaient « mais tout ça, c'est de la superstition et il n'y a pas de raison de s'enticher de ces croyances qui sont tout à fait des choses populaires et que nous devons mépriser. Hein. Les confucéens, par définition, étaient plutôt hostiles à cela. Mais dans la vie de tous les jours, dans la vie concrète, le feng shui, en tout cas pour les derniers siècles écoulés, a toujours joué un grand rôle. Je me suis rendu il y a peu de temps dans la résidence des descendants de Confucius, à Tsufu, dans la province du Shandong, et dans la résidence des descendants, une bonne partie de l'aménagement de la maison et du jardin attenant, suit les prescriptions du feng shui. Et pourtant, on est chez les descendants de Confucius.
C'est pas une autre question. Vous avez beaucoup parlé et vous nous avez montré ces merveilleux jardins zen du Japon. En Chine, c'est pas zen, c'est chan. Y a-t-il, parce que je pense qu'on les connaît moins ou on en parle moins, y a-t-il en Chine des jardins du type, un peu semblables aux jardins zen du Japon, c'est-à-dire aussi épurés? Et sinon, quoi?
Alors, c'est difficile de répondre à cette question. Alors, il est sûr que ce qu'on connaît sous le nom de zen au Japon, comme vous le dites fort justement, c'est en fait une des branches du bouddhisme du grand véhicule qui s'est d'abord développé plusieurs siècles auparavant en Chine sous le nom de Chan. Ça existe aussi en Corée sous le nom de Son et au Vietnam. Donc il y a là encore ramification et diffusion d'une tradition. Alors, certains spécialistes de l'histoire des jardins disent qu'à l'époque des Song, donc sous la grande dynastie qui a régné en Chine entre 960 et 1279, il y aurait eu, et enfin on sait qu'il y a eu de grands monastères bouddhiques, dont un certain nombre relevant de l'école Chan, où des moines s'adonnaient à l'art des jardins et étaient aussi peintres et pratiquaient la peinture de paysages telle qu'elle s'est ensuite transmise au Japon. Simplement, il ne reste rien aujourd'hui des jardins de cette époque-là. À l'époque des Song, par contre, on attachait beaucoup d'importance en Chine déjà au choix et à la disposition des rochers dans les jardins. Et il y a des jardins impériaux très célèbres à l'époque des Song, où il y avait, paraît-il, des pierres extraordinaires en quantité. D'ailleurs, dans les jardins de Suzhou aujourd'hui, un certain nombre de pierres célèbres sont censées provenir de ces jardins impériaux mythiques, en quelque sorte. Alors, avec le Japon, il s'est produit un certain décalage. C'est-à-dire que au moment où le zen a commencé vraiment à s'épanouir au Japon, à partir du XIIIe siècle, à ce moment-là, la Chine était tombée sous l'emprise des Mongols et la dynastie des Song, c'était déjà du passé. Beaucoup de choses avaient été détruites en Chine et donc il est possible que les moines bouddhistes japonais relevant de l'école Chan, qui allaient d'ailleurs pour les plus importants se former en Chine, aient rapporté avec eux un certain nombre de pratiques qui existaient en Chine, les aient en quelque sorte adoptées, transmises, modifiées. Et en effet, comme ça a souvent été le cas au Japon, quelque chose de typiquement japonais. Un peu comme la cérémonie du thé, une grande tradition aussi japonaise, qui a aussi des origines en Chine dès l'époque Tang et sous la dynastie des Song. Et tout ce qu'en ont fait les Japonais, évidemment, est, on peut dire, entièrement japonais, mais a tout de même de très importantes origines chinoises. Alors, par exemple... on sait qu'à l'époque des Song, il y avait un certain nombre de grands monastères qu'on ne connaît plus aujourd'hui que par les sources écrites, les jardins n'existent plus, mais qui possédaient des monastères particulièrement riches, qui, un peu comme ce qu'on voit au Japon encore aujourd'hui, avaient inclué certainement des parties résidentielles ornées de jardins, et il y a fort à parier que dans ces jardins, il y avait déjà des jeux sur la disposition des rochers. Alors, est-ce que c'était d'une manière aussi épurée que ce qu'on voit au Japon, je n'y crois pas beaucoup. Un autre élément qui peut être important aussi, c'est que la plupart des Japonais n'allaient pas en Chine. Il y avait quelques moines japonais qui avaient la possibilité d'aller faire des études en Chine et qui en revenaient, mais la plupart des gens au Japon ne connaissaient les jardins de Chine que parce qu'on en racontait, et éventuellement parce qu'il en était évoqué dans les textes, ou éventuellement indirectement par la peinture chinoise. Et donc il est possible qu'en imaginant si vous voulez, le paysage idéal, ce qu'on étudie essentiellement en tête, c'était la peinture monochrome, les traits d'origine chinoise, à l'encre sur papier ou sur soie, qui est elle-même déjà extrêmement dépouillée et très économe de moyens. Et quand on a voulu donc transposer ça sous forme de jardin au Japon, eh bien on a peut-être encore accentué cet aspect d'économie de moyens. Et je ne suis pas sûr du tout que justement le dépouillement qui paraît si typique aujourd'hui, l'austérité si typique des jardins zen au Japon, ait été poussé à ce point en Chine. Une raison philosophique. Oui, alors je crois que c'est une tendance. Alors, vous avez raison. Il y a certainement une tendance d'une partie des écoles du zen au Japon à ce dépouillement extrême, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de toutes les écoles zen. Et puis, il faut dire aussi qu'il faudrait regarder ça de plus près, évidemment. Dans la totalité des jardins qui dépendent aujourd'hui de temples zen au Japon, vous avez quelques jardins qui sont effectivement extrêmement nus, extrêmement dépouillés, comme celui du Ryoenji, comme une partie de celui du Daizen-in que je vous ai montré tout à l'heure, mais qui ne sont jamais qu'une partie d'un ensemble plus vaste, qui, elle, est beaucoup moins dépouillée. Et puis, autre facteur qui a pu jouer aussi, c'est que ces jardins zen, ils ont été essentiellement redécouverts dans les premières décennies du XXe siècle par des spécialistes japonais qui s'attachaient justement à retrouver ce qui aurait été l'essence du jardin japonais dans toute sa pureté. Alors, je ne sais pas si elle existe, mais je pense qu'ils ont été tentés par le fait de mettre en avant cet extrême dépouillement, cette extrême austérité du jardin zen, parce qu'elle était si étonnante. Il y a le plus grand créateur de jardin japonais dans la première moitié du XXe siècle, c'était Shigemori Mirei, qui a été un des grands pionniers dans la renaissance du jardin au Japon. Et ce monsieur était passionné de jardin zen. C'est lui qui est à l'origine souvent de la restauration de beaucoup des temples et des jardins zen qu'on connaît aujourd'hui. Et il a certainement beaucoup contribué à accentuer cet aspect-là des choses. Je ne sais pas s'il y a encore une question.
Je voulais dire si en Chine au XXe siècle, justement, cette tradition très ancienne est encore une tradition vivante aujourd'hui. Des jardins, en général. C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire une restauration pour continuer à créer ce genre de choses?
Excellente question, effectivement, qui se pose d'ailleurs pour tous les pays de l'Extrême-Orient, mais en particulier en Chine. La redécouverte dont je parlais il y a un instant pour le Japon s'est faite plus tardivement en Chine, de même que tout le mouvement concernant l'histoire de l'architecture. Et donc, au cours du XXe siècle en Chine, il y a un certain nombre de spécialistes qui se sont attachés à dire, en résumant très vite, nous aussi, nous avons une tradition très ancienne des jardins, par opposition à l'Occident, par aussi comparaison à ce qui se passait au Japon. Nous sommes en fait peut-être même les fondateurs de cette grande tradition extrême orientale des jardins, et nous allons la retrouver. Et donc, il y a eu tout un mouvement d'études des jardins anciens, de remontées aux sources, de restauration. On a notamment redécouvert, ce sont des Japonais qui l'ont fait les premiers en réalité, on a redécouvert un traité très ancien, qui s'appelle le Yuan-ye, qui date du début du XVIIe siècle, qui est un traité d'aménagement des jardins. Vous voyez, c'est significatif, ce sont les Japonais d'ailleurs qui l'ont redécouvert les premiers, et ça a été le début de tout un engouement en Chine, dans des milieux évidemment très spécialisés, de personnes cultivées qui ont voulu faire renaître la tradition du jardin chinois. Et à la suite de ça, essentiellement à partir des années 50-60, on a restauré et, il faut dire, reconstitué, pratiquement quelquefois entièrement, un certain nombre de jardins qu'on présente aujourd'hui comme des grands jardins classiques, notamment les grands jardins de Suzhou, en les restaurant à très, très forte dose. Alors aujourd'hui, en gros, il existe deux tendances. On continue à faire du pastiche de cette tradition-là, c'est-à-dire ce qu'on a fini par présenté aujourd'hui comme étant l'essence du jardin chinois traditionnel, eh bien c'est souvent ce qu'on imite en moins bien dans les jardins des grands hôtels ou dans quelques jardins publics qu'on aménage sur ce mode-là. Ou bien, c'est l'autre tendance, on adopte le jardin à l'occidental et on essaie de matiner ça d'influence chinoise. Et donc il existe des tentatives intéressantes, mais que je trouve, moi, beaucoup moins, disons, réussies qu'un certain nombre de jardins anciens que je vous ai montrés ce matin. Mais maintenant, disons que ce qui a totalement disparu en Chine pendant très longtemps, c'était la possibilité d'aménager des jardins particuliers. Et aujourd'hui, on entre dans une période où ça va redevenir possible. Un certain nombre de personnes fortunées qui peuvent maintenant faire l'acquisition de terrains, etc., vont peut-être se relancer dans l'aventure d'aménager des jardins. Ça commence à exister, ça balbutie encore. Pour l'instant, moi, je n'ai pas encore vu vraiment d'exemple très... très extraordinaire, mais enfin, il y a des tentatives intéressantes. L'architecte, ça date déjà maintenant d'un bon moment, mais l'architecte Pei, l'auteur de la pyramide du Louvre, qui est, comme vous le savez, d'origine chinoise, a construit au début des années 80 un hôtel dans l'ancien parc impérial des collines parfumées, dont la forme moderne, tout à fait contemporaine, reprend un certain nombre de thèmes du jardin chinois. La combinaison des espaces et des cours, le fait d'ouvrir certaines ouvertures sur des choses qui vous sont données à regarder, les fameuses portes de lune, etc. Lui a été un pionnier, et depuis, ça a beaucoup été imité, bien sûr, depuis. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions, si vous êtes...
Vous avez évoqué les pastiches et reproductions. Il me semble avoir entendu qu'il en existait en région parisienne, pas très loin, une copie, une reproduction de jardin chinois. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Et si oui, est-ce que ça vaut le coup d'aller le visiter?
C'est un jardin précis? Oui, à ma connaissance, il n'existe, je ne sais pas, peut-être que d'autres personnes auront des idées, il n'existe aucun véritable jardin chinois en France. Tout dépend comment. Il y a un jardin que je connais qui est le jardin d'un créateur de Panjing qui s'appelle le jardin Yili, qui se trouve, mais je n'ai pas l'adresse exacte, à proximité de Maurepas, dans les Yvelines. Yili, Yili, je crois qu'il doit y avoir un site internet. Et le propriétaire est un maître chinois des Panjing. Et donc c'est une pépinière de Panjing, et dans une partie de sa propriété, il a aménagé un jardin sur le modèle, disons, des jardins de Suzhou. C'est assez intéressant à voir. Par contre, il existe un certain nombre de jardins japonisants, disons. Et ça, la tradition existe depuis le début du XXe siècle. Donc il y a le plus célèbre, c'est peut-être, et un des plus réussis, peut-être le jardin de l'UNESCO à Paris. Qui a été en partie dessiné par Isamu Noguchi et qui intègre dans une architecture tout à fait contemporaine un certain nombre d'éléments du jardin traditionnel. Mais il y en a bien d'autres. Moi, je trouve toujours que c'est assez peu intéressant en soi de transposer en France un jardin qui se voudrait à 100% la reproduction, la réplique, si vous voulez, d'un des jardins de Chine. Parce que pour goûter un jardin chinois réel, il faut tout le reste. Il faut l'environnement, il faut le climat. Et si vous transposez brutalement, comme ça s'est fait aux États-Unis, il y a plusieurs exemples de la plus petite cour du jardin du maître des filets, que je vous ai montré tout à l'heure, a été reproduite à l'identique au Metropolitan Museum à New York. Ça se trouve, je crois, au 4e ou 5e étage du musée. Et ce qui était une cour en plein air en Chine est recouvert d'un toit de verre. C'est très joliment fait. Ça a été fait, je dirais, à la perfection par des artisans venus de Suzhou à New York. C'était dans les années 80 et qui ont respecté scrupuleusement donc l'esprit du jardin d'origine et en ont fait une réplique parfaite. Mais ça garde tout de même, je trouve, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont visité, mais un côté très, très artificiel. Ce qui serait peut-être plus intéressant, c'est d'essayer de de jouer sur un certain nombre de principes d'aménagement de ces jardins. Bon, je vous ai exposé quelques-uns ce matin, et puis d'essayer de les transposer dans nos jardins à nous, et de créer quelque chose de nouveau. Si, bien sûr, oui, il y a des tentatives, et aujourd'hui, dans l'art des jardins contemporains, beaucoup de gens se préoccupent de tout ça. Oui.
En Europe, il y a toujours des jardins enclos. Non, le jardin du Moyen-Âge, par exemple. Alors, je connais moins le jardin moyen-oriental, persan, mais c'est aussi, il me semble, c'est enclos. Donc, il y a toujours cette idée de paradis, en fait.
Alors, le fait d'enclore un jardin, évidemment, ça n'est pas une invention chinoise et ça se pratique un peu partout, dans beaucoup de traditions de jardins dans le monde entier. Le fait d'enclore, d'abord, ça permet de mieux contrôler un terrain donné, ne serait-ce que, par exemple, la distribution de l'eau, la façon dont ce jardin va être protégé des agressions éventuelles de l'extérieur, etc. Donc le fait d'enclore son terrain, évidemment, ça n'est pas une invention chinoise. Ce qui est particulier à la tradition extrême orientale, c'est que l'enclos lui-même est orienté et que dans la tradition du feng shui, on attache beaucoup d'importance au contrôle des échanges entre intérieur et extérieur. Donc par exemple, on va limiter au maximum le nombre de portes. Et l'accès à l'intérieur de l'enclos va se faire d'une manière extrêmement contrôlée, souvent indirecte, et on n'entre pas comme ça de plein pied dans le jardin. À l'inverse, alors j'aurais dû en parler, mais on ne peut pas parler de tout, le jardin a beau être enclos en Extrême-Orient, il y a aussi une tradition très ancienne qui consiste à ce qu'on appelle emprunter des vues, ou emprunter le paysage à l'extérieur. Par exemple, à Suzhou, le grand jardin du politicien malchanceux est un jardin, une des vues célèbres du jardin. C'est une certaine pagode du temple du Nord, qui se trouve au nord de la ville, non loin de ce jardin, et qu'on aperçoit au-dessus des frondaisons, et donc par-delà les murs du jardin, lorsqu'on se trouve à un endroit précis du jardin. Et donc c'est une vue célèbre, elle est répertoriée parmi les choses qu'il faut voir dans le jardin, et le jardin, si vous voulez, fournit un écrin particulier à l'intérieur duquel on va pouvoir voir de loin cette pagode. C'est ça qu'on appelle emprunter la vue. Le principe a été repris au Japon, ce qu'on appelle shakkei au Japon. Il y a beaucoup de jardins de Kyoto, par exemple, où on vous fait voir, depuis un certain angle, le mont Hiei, qui est une des montagnes qui domine Kyoto, ou un bâtiment qui se trouve à l'extérieur, etc. Donc le jardin est enclos, il est contrôlé, il constitue un monde à part, et certains jardins cultivent ça et font en sorte que lorsque vous y êtes, vous oubliez totalement le monde extérieur. Et puis d'autres jardins, au contraire, font, lorsque ça s'y prête évidemment, que à l'intérieur une fois à l'intérieur du jardin, vous avez tout de même accès visuellement, quelquefois auditivement aussi, à ce qui se trouve à l'extérieur. Par exemple, à Suzhou, il y a des descriptions de jardins anciens. On vous dit, depuis l'intérieur du jardin, on entend le bruit des bateaux et le chant des bateliers qui passent sur les canaux à l'extérieur du jardin, etc. Donc c'est une manière aussi d'emprunter quelque chose, mais qui est détournée en quelque sorte par le jardin. Donc la tradition de l'enclos, elle est effectivement répandue partout, mais elle a vraiment été très, tout à fait délibérément utilisé comme un moyen de créer des effets particuliers dans les jardins d'Extrême-Orient. Je crois qu'on va peut-être s'arrêter là. Merci en tout cas de votre attention. J'espère que ça vous aura intéressé, en tout cas donné l'envie d'aller voir de près quelques-uns de ces jardins, parce que les montrer sous forme de photographie, évidemment, ça n'est toujours qu'une toute petite partie des choses. Merci.
Oui, mais c'était fait avec un tel talent qu'on se demande si on a besoin d'aller voir. En tout cas, merci beaucoup, c'était captivant. Juste 30 secondes pour vous annoncer nos deux dernières conférences de l'année, donc le 17 novembre et le 8 décembre. Le 17 décembre, en principe, le 17 novembre en principe avec Madame Baumit sur la littérature. C'est confirmé, parce qu'on dit que ça n'allait pas être échangé. Donc, le 17 novembre, donc en principe avec Madame Ursula Baumgart sur la littérature orale en Afrique, et le 8 décembre avec le président Legrand, le président de l'INALCO, qui viendra nous parler de la Mongolie. Il se peut que les deux thèmes soient éventuellement inversés, mais de toute façon c'est à ces deux dates-là. Voilà. Je voulais aussi encore en profiter pour vous dire que nous organisons la semaine prochaine, la BULAC organise la semaine prochaine à la BNF le jeudi et à l'Université Paris 7 Paris Diderot le vendredi, un colloque pour se présenter à ses futurs utilisateurs. Donc il y a des programmes qui sont à la sortie, vous pouvez vous inscrire librement, hein, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire. L'objet de ce colloque est d'expliquer un peu à quoi va ressembler cette bibliothèque et comment elle va pouvoir servir. Donc la deuxième journée sera notamment une journée occupée par tous les enseignants-chercheurs, futurs utilisateurs de ces collections. Et la première journée sera une présentation plus classique du bâtiment, des services qui seront offerts des collections. Je passe encore la parole pour 10 secondes à Madame Tiraspolsky, qui a également une annonce à nous faire.
Oui. Et c'était pour vous annoncer que la formation continue qui organisait des conférences culturelles dans le cadre des diplômes d'initiation en langue ou de modules en langue qui étaient payants ouvre aux personnes de la BULAC les conférences qui ont lieu le samedi matin, rue de Lille, et sur des thèmes qui sont proches de ceux-là, mais qui correspondent aux langues qui sont enseignées en formation continue. Donc je vous laisse quelques programmes pour les diffuser et faire savoir. Merci.
Merci beaucoup. Ouvre gratuitement, vous n'avez pas précisé, mais merci beaucoup.
Ça m'intéresse beaucoup. Un livre vietnamien sur les paysages en miniature, mais...